Nous sommes mercredi 7 octobre 2020, Ubichiote c'est de la merde, bienvenue dans le Dojo Bar.
Bonjour.
C'est vrai, ça va, je vous dérange pas?
C'est possible.
Ah, je crois que l'intro était fini. C'est pas grave.
Il y en a qui essayent de dormir.
Alors qu'il est même pas 20h chez toi.
Galaxies, en cours comme dans la vie, essaye toujours de dormir.
Au secours.
Voilà, vous connaissez l'adage, hein, heureux l'étudiant qui, tel la rivière, peut suivre son cours sans sortir de son lit. Voilà.
C'est beau.
Ça fait plaisir.
On dirait du Baudelaire. 10 secondes, on a déjà niqué l'émission.
Mais complètement. Bon, bonsoir à tous quand même. Alors, JBC nous dit. Bon, alors qui sait qu'elle est 242 étoiles de Mario Galaxy?
Ah, moi je le sais, mais sur ma sauvegarde, oui.
Bah voilà, moi aussi, hein, c'est pareil, sur ma sauvegarde Switch.
Mais je le referai pas.
Je pense que je ne le referai pas non plus.
Oh, bref. C'est un des meilleurs jeux du monde.
C'est probablement un des meilleurs jeux de l'histoire. Mais 242 étoiles, c'est chaud quand même.
J'ai déjà refait le jeu.
Bah ouais, mais faut le faire avec Mario, puis il faut le faire avec Luigi.
Ouais.
Et du coup, avec Luigi, c'est quand même un peu. Enfin, Mario, je me rappelle qu'il y a un des niveaux quand même où j'ai claqué genre 50 vies, un truc comme ça. Parce que c'était chaud.
Le boss qu'il faut tuer avec un seul point de vie.
Oui, c'est pareil. Mais ça va vite. Il y avait le
Lui costaud.
Tu sais, le grand Mario sur lequel tu te balades.
Ah,
les
dalles.
Les trucs de dalles disparaissent au fur et à mesure. Ouais,
celui-là aussi, je m'en souviens. Ça fait partie des 2-3 où j'ai vraiment eu du mal.
Ouais, faut bien s'accrocher. Bref, c'est pas du tout le sujet de l'émission du jour. C'est pour ça que voilà.
Mais on parlera de Mario à un moment.
Mais on parlera de Mario. On parlera notamment de Mario 35. On parlera de tout ce qui s'est passé cet été chez Ubicrotte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le merveilleux résumé que nous a fait Antix.
Qui n'est même pas, qui à mon avis même pas complet.
Non, mais qui est tel l'iceberg. C'est-à-dire que beaucoup plus. Enfin, c'est juste ce qu'on voit. Ce qui est en dessous, c'est bien pire, visiblement. Enfin, bref. On va commencer tout de suite par les restes du monde. À savoir qu'en ce moment, il y a un Treehouse.
Non, il est fini.
Ah, il est
depuis
fini.
Depuis une demi-heure.
Ouais. Oui, les mecs se sont arrêtés parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'avec le dojo bar qui démarrait, bon, c'était pas.
Voilà, fun. Et puis au bout d'un moment, Zelda Musso, c'est toujours la même chose. Hein.
C'était pas jouable. Oui, voilà, alors il y a des petits événements qu'on a éludés gentiment dans nos premières émissions, notamment effectivement le Zelda Musso, dit Musso Zelda 2 Fléau of the Wild.
Of the Wind, t'as marqué.
Oui, bah, je me suis chié dessus dans le chrono, dans le conducteur, ça arrive. Donc ce qu'on en sait, c'est qu'il y a beaucoup de fanservice.
Ah, mais si, il y en a des gueules, il y en a partout. Là, du coup, ce qu'a montré le live du Treehouse, c'est que on savait déjà que les 4 champions seraient jouables.
Voilà. Pardon.
Non, mais je laisse le silence pour ce moment important.
Non, mais c'est il fallait le faire.
On aura un pain jeune qui sera jouable.
Un pain de forain.
C'est un sympa. Qui sera jouable, c'est une ninja. Et surtout, toute l'interface a été reprise de Breath of the Wild. Jusque dans les cartes, jusque dans les cartes du monde, l'inventaire.
Les menus, les sons, il y a tout.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils ont. Nintendo, ils sont arrivés chez Koei Tecmo, ils se sont fait, tenez, voici les assets. Bon, en fait, pareil. Faites pas de la merde cette fois.
Non, mais le premier Zelda Musso était pas. Enfin, c'était sympa, ça restait un.
Disons que ça se voyait que c'était Koei Tecmo qui l'avait fait dans les designs qui étaient très.
Koei Tecmo.
Enfin, tu regardes le design de Zelda qui était bien au demeurant, tu sens que c'est un design Koei Tecmo, pas Nintendo.
Oui, voilà, mais ça empêche que c'était un jeu tout à fait correct, très rigolo. Alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est.
C'est un Musso.
C'est un Musso, donc ça veut dire que c'est. Comme je disais la semaine dernière.
Tapé.
C'est ça, mais ça gratouille, enfin ça chatouille, tu gratouilles, et puis c'est fini. Il n'y a pas de. Tous les 3-4 ans, ça chatouille, tu gratouilles, et c'est bien. Faut pas passer ta vie dessus. Bon, sachant qu'il y avait quand même le niveau. Comment ça s'appelle? Enfin, le mode carte qui était juste délirant d'un point de vue contenu, mais genre.
Ouais.
Enfin, c'était même déconnant, quoi. Où tu peux passer genre 125 heures sur la carte, quoi, minimum.
Ouais, Fire Emblem Warriors, c'était aussi pareil. Hein. T'avais des cartes,
oui, voilà.
Des cartes de challenge où tu pouvais facilement y passer 50 heures pour tout finir sans compter les DLC, quoi.
Oui, non, mais c'est un peu délirant de ce point de vue-là, mais maintenant, le mode campagne, ça n'empêche pas qu'il est rigolo, t'as des cartes un peu longues sur la fin qui duraient presque une heure et quart à faire des objectifs divers, mais c'est voilà, suffisamment varié et intéressant pour que ça marche.
D'ailleurs, en plus, le mode campagne de l'original, alors je sais pas ce que ça donne sur les éditions 3DS et Switch, et sur Wii U, en plus, t'avais le côté cool où à un moment, tu jouais les méchants.
C'est pareil, c'est à la fin du jeu, c'est le post-game. Ils te font revivre, revivre l'histoire, mais du point de vue des méchants.
Ouais.
Et du coup, tu prends une tôle à chaque fois.
Non, mais ça, c'est les intermédiaires, les trucs qui sont ellipsés dans l'histoire.
Oui, voilà. Ah, pendant ce temps, Ganon avait conquis.
Bah, il y a exactement un moment où tu penses que t'as fini le jeu, et en fait, non, t'as un nouveau chapitre qui s'ouvre et tu joues Ganondorf.
Tranquille.
Et ça, c'était assez cool.
Bref, donc ça a l'air cool, on en parlera plus en détail quand le jeu sera sorti, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a, eu pas mal de détails, on a vu beaucoup de choses, mais c'est surtout du visuel, il faudra voir exactement comment ça se joue et s'il y a des petites surprises par rapport à
ce que ça va être. Ça va être dans les histoires, les surprises. Parce que c'est la foire à la cinématique, bien fan service.
Et puis j'espère qu'on saura où ça se place sur la timeline Zelda.
Est-ce qu'on peut ne pas revenir non, a priori 100 ans avant Breath of the Wild.
Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est 100 ans, c'est pendant la bataille qu'on nous décrit tout au long de
Qu'on nous décrit et dont on voit la fin quand on réunit les 12 souvenirs dans Breath of the Wild, puisque finalement c'est...
Ah oui, spoiler, Link meurt à la fin du jeu.
Oui, voilà, mais ça...
Pardon Allô
Oups.
Pardon. Non, mais tout le monde meurt, c'est Evangelion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça suffit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la cinématique de fin, le 13e souvenir. Donc quand on ramasse tous les souvenirs dans Breath of the Wild, il y a une petite surprise, et donc on a en gros comment ça s'est terminé, finalement, on le sait. Alors là, en l'occurrence, c'est extrêmement bien raconté dans Breath of the Wild. J'ai l'impression que dans Musou Zelda, ça va être un peu plus bordélique.
Ça n'aura probablement pas le même impact émotionnel.
Ça, je pense aussi.
Disons-le comme ça.
sur la fin du jeu, je pense qu'il peut y avoir le même feeling que Torna vis-à-vis de Xenoblade 2.
C'est pas impossible.
Tu sais que l'histoire va mal terminer, quoi que tu fasses.
Et du coup, peut-être que... Parce que finalement, Torna, l'impact dramatique, il était là quand même. Hein.
Oui. Mais après... la fin, elle était exceptionnelle.
Mais comme le Titanic, hein, je veux dire, tu sais qui coule à la fin du film.
C'est ça.
Après, Torna, ce qui était intéressant, c'est que tu savais que le pays allait être détruit, mais tu savais pas exactement comment ça se passait, alors que, pour le coup, là, on l'a vu dans Breath of the Wild, quoi.
Tu l'as pas vu dans le détail, non
Tu sais pas exactement comment ça se passe. Enfin, c'est genre, pour le coup, c'est le principe du... Ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est ce qui fonde, par exemple, Star Wars. C'est pour ça que la prélogie, bon, ça dépend des gens, mais elle marche bien elle marche bien pour raconter cette descente aux enfers de la République et d'Anakin. Pourtant, tu connais la fin. Et oui. Ça peut être pareil ici, les événements qui amènent à la fin que tu connais peuvent rajouter une dimension supplémentaire et ou ajouter quelque chose auquel t'aurais pas pensé.
Après, ce qui est vraiment cool, c'est l'idée de voir un peu plus les champions, qui sont des personnages qui étaient assez chouettes dans le jeu d'origine, mais qu'on voyait pas des masses, et là, on va vraiment les voir dans un scénario travaillé, quoi.
Je suis effectivement, on nous dit que les journalistes du Treehouse étaient très très enthousiastes vis-à-vis de Urbosa, et moi je suis d'accord, Urbosa c'est le prodige qui a la personnalité la plus intéressante, je trouve, de Breath of the Wild, sachant qu'on les prodiges, on les croise finalement pas tant que ça en plus. Hein, c'est vraiment leur histoire est racontée à travers les flashbacks.
Ça va être des flashbacks.
Quel bâtard. Mais, voilà, mais en fait, ça n'empêche pas que le Urbosa, je trouve que c'est un des plus intéressants parce que finalement, Mipha, elle est assez.
Mipha, c'est un peu, je suis amoureuse de Link. Ah là là, il est trop beau, Link.
C'est un peu ça.
Ce qui est un peu dommage.
Révalide,
cette fameuse scène, comment on va faire.
Révalide, t'as envie de lui claquer le bec.
C'est Falco. Hein.
Ah non, mais c'est ça. C'est,
Falco
c'est pas,
en chiant.
Pas très intéressant. Je crois que le Goron, je sais même plus comment il s'appelle, c'est vraiment le moins intéressant. Daruk. Parce que c'est juste la grosse brute en fait. Enfin, c'est le catcheur.
C'est la grosse brute au grand cœur.
Voilà. Et en fait, Urbosa, c'est peut-être le personnage le plus intéressant puisque c'est alors c'est pas la nourrice. Si, c'est la nourrice de Zelda. Mentor, je sais pas trop quoi.
C'est plus ou moins sa garde du corps, je crois, un truc comme ça.
Oui, voilà, c'est un personnage proche de Zelda qui a une forte personnalité.
Elle a plus une relation avec Zelda qu'avec Link, en fait.
En plus, oui.
C'est ça qui la rendait intéressante aussi, c'est que c'était pas un personnage qui était dépendant de sa relation à Link, mais qui avait vraiment ses relations à côté, quoi.
C'est pas un personnage fonction non plus. Contrairement aux autres, enfin Révalier est quand même un personnage fonction et Daruk aussi est un personnage fonction.
Ouais,
Mipha peut-être un peu moins parce que
Révalier et Daruk c'est peut-être les moins développés.
Mais on verra si ça se trouve sur ce mousseau-là, ils vont les développer un peu plus et ça va être intéressant.
Mais
que ce soit point de vue gameplay ou histoire personnelle finalement.
Clairement.
Bref, je voulais pas qu'on parle trop de mousseau et on en a parlé pendant 10 minutes, donc
comme
c'est bien. Donc
comme d'hab. C'est bien, on a fait le tour du jeu.
Stop, c'est pas gentil. Il y a eu Pikmin 3 aussi. Alors Pikmin 3, on le connaît déjà très bien. C'est une édition de luxe où il y aura tout dedans, tous les DLC et tout ça. Donc ça, c'est cool. Surtout que les DLC sont vachement marrants. Surtout les DLC multijoueurs, ils sont très 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 bons. Moi, je crois que je n'ai acheté que le DLC. Alors, je sais plus s'il y avait un DLC solo et un DLC multijoueur sur Wii U. Il me semble que c'était coupé comme ça.
Tu me fous le doute.
Je pourrais te dire une bêtise, mais j'ai un souvenir de ça. Parce que j'avais acheté que le DLC multijoueur, puisque moi j'ai joué avec Muse, qui adore ça aussi, qui a bien kiffé Pikmin 3 justement en coop. C'était vraiment cool. On a twitché sur de la coop Pikmin 3 d'ailleurs. C'était vraiment très très cool à faire. Notamment la chasse aux pièces où l'objectif c'est de finir la carte et de rouler sur la carte, en fait de ramasser toute la carte en 10 minutes ou 12 minutes en fonction des cartes. Mais il faut vraiment ramasser absolument tous les éléments, tous les ennemis, toutes les pièces, tous les palais. Enfin, c'est hyper rigolo comme mode de jeu parce que c'est vraiment pas facile pour arriver à optimiser. En général, quand tu finis, quand tu platines la carte, c'est-à-dire que tu l'as fini à 100%, t'es vraiment dans les 4-5 dernières secondes du chrono, quoi, même quand t'es très bon. Donc c'est vraiment de l'optimisation et tout ça, c'est super rigolo. Et il y a l'air d'y avoir plein d'options de gameplay qui ont été changées, notamment le fait qu'on a quand même des pointeurs avec les Joy-Con ou le...
Ouais, ça, il m'a semblé justement que le pointeur tremblotait, donc je sais pas s'il se contrôle au gyroscope de la même manière que le pointeur dans Mario Galaxy.
Bah pour moi, oui, quoi. Parce que je vois pas comment ça peut être autrement.
Et ça pourrait être très cool.
Et effectivement, ouais, parce que dans Mario Galaxy, ça marche pas si mal que ça, c'est pas... aussi confortable que la Wiimote, je dirais, mais ça a pas les mêmes défauts, parce que la Wiimote, effectivement, ça avait tendance à trembloter ou partir à droite complètement, ou... Enfin, des fois, t'avais des petits soucis, là, ça marche un peu mieux. Et on va finir ces restes du monde avec un...
Attends, juste, il y a donc, oui. Y a le... pour le mode coop, là, donc c'est confirmé, l'intégralité de l'aventure est faisable en coop.
Comme...
Alors, j'ai un doute, est-ce que c'était le cas sur Wii U, je sais
pour
plus.
Pour moi, c'est le cas, tu pouvais pas jouer à 3 capitaines, mais tu pouvais jouer à 2.
À 2, ok. Donc ils ont montré le principe de jump-in, quand t'as un deuxième joueur qui se pointe, en fait t'es pas obligé de relancer la totalité de la partie, quoi.
Il se pointe ça, dans par ta contre, c'était pas le cas sur Wii U, me semble-t-il, où t'étais obligé de démarrer à deux joueurs si tu voulais faire à deux joueurs.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Un mode supplémentaire, donc c'est un mode de jeu particulier où tu commences avec une carte dans un coin de l'écran, il y a des fruits dessus, ils appellent ça la bataille bingo, et de ce que j'en ai compris, je regardais du coin de l'œil. Il faut que tu ramasses les fruits qui sont sur le terrain avant ton adversaire pour remplir ta grille.
Voilà, c'est le retour du merveilleux mode multijoueur de Pikmin 2, qui est une petite merveille aussi.
Ah mais oui.
Mais qui est un petit bijou de gameplay, le mode de joueur de Pikmin 2, si vous n'avez jamais joué. Alors, Pikmin 2 en soi, le mode solo, je trouvais beaucoup moins bien que le 1. Pour tout un tas de raisons, les caves aléatoires sont pas hyper originales, il y a plein de trucs qui vont pas dans Pikmin 2, il y a des choses très bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très moyennes, notamment en termes de narration et d'ambiance, il est quand même largement en dessous du premier, qui était bien plus focalisé, je dirais. Par contre, le mode multi, mais j'ai passé des après-midi entiers avec des potes sur le mode multi de Pikmin 2, parce que c'est vraiment l'éclate. Tu peux tellement faire des coups de pute à aller chercher la bille de l'autre, te rendre invisible, la trimballer, enfin c'est juste extraordinaire quoi, c'est une marade extraordinaire Pikmin 2 en multi. Donc le retour de ce mode-là sur Pikmin 3 est une excellente nouvelle. C'est ce que tu décris, il ressemble beaucoup. Bref. Et donc on va finir avec un sujet passionnant. Minecraft dans Smash Bros.
Voilà, mais c'est...
C'est fait.
Alors, sur le coup, ça m'a laissé de marbre l'annonce, et après j'ai regardé le gameplay, et je pense que Sakurai vient de perdre 5 ans d'espérance de vie.
Ça a l'air incroyable.
C'est un truc de malade, c'est clairement le DLC le plus travaillé. Hein.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé du gameplay, du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou tout compris?
Alors bon déjà ça c'est un truc qui est assez inédit dans Smash Bros, ils ont vraiment voulu garder l'aspect visuel du personnage, enfin il est en 3D comme il est en 3D dans Minecraft en gros, c'est les mêmes animations, enfin le même genre d'animation très raide, le même personnage cubique, ils ont pas essayé de l'adapter visuellement, un peu comme Game & Watch, sauf que Game & Watch ça se calme mieux avec le reste. Et en termes de gameplay, bah en fait, il a repris la mécanique de Minecraft qui consiste à tout simplement à miner du terrain, créer des objets et poser des blocs. Et tout ça se fait avec un seul unique bouton, le bouton B. Donc quand tu es au sol, tu vas pouvoir miner le sol pour obtenir des ressources. Et en fait, les ressources que tu vas obtenir dépendent du terrain. Sachant que, par exemple, sur le terrain de Donkey Kong 64, qui est uniquement en terrain en bois, tu n'auras quasiment que du bois. Alors que sur un terrain comme le vaisseau de Fox, tu auras du métal.
Oh putain. Et, c'est voilà. Le mal de crâne arrive.
Alors, sur Destination Finale et Champ de Bataille, c'est des ressources fixes. Et en gros, l'idée, c'est qu'un peu comme à Darren, il va avoir un nombre limité d'utilisation de ses coups. Les personnages de Minecraft vont pouvoir utiliser en fait les ressources qu'ils ont obtenues pour différentes choses. Donc, tu vas avoir créé des armes plus puissantes. Parce que comme Darren, le personnage de Minecraft a ses armes qui cassent. Et le moyen de les récupérer, en fait, c'est d'aller à l'établi de Minecraft et de les construire avec les ressources que tu as en cours. Sachant qu'en fonction des ressources que tu as des armes plus ou moins puissantes.
Et établi que tu peux invoquer à ta position avec le B bas, il me semble.
Alors, avec le bouclier B.
Ouais.
Ce qui fait qu'en fait, ton adversaire peut pas camper devant pour t'empêcher de récupérer tes armes. Par exemple. Et le dernier truc, c'est quand il est en l'air, il peut poser des blocs. Et alors là, Sakurai a montré quelques stratégies de gros fils de pute, disons-le tout de suite. Puisque en fait, un bloc, et ben, finalement, c'est comme un sol. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux aller au-dessus du vide, poser un bloc, faire un smash pass sur un adversaire qui essaie de revenir. Ou alors, tu peux poser une série de blocs pour empêcher ton adversaire de remonter. Voilà. Un personnage qui s'annonce extrêmement amusant pour ceux qui aiment empêcher leurs adversaires de revenir sur le terrain.
Un nouveau personnage cancer annoncé dans
Alors là, j'avoue qu'en termes de cancer, on n'est pas trop mal. Mais attends, c'est pas tout, puisque à côté, il a aussi des petits trucs rigolos, genre un chariot qui peut, duquel il peut sauter. Et si jamais un adversaire va dedans, et ben, il est bloqué dedans pour une certaine période. Il pourra poser un bloc de TNT qui pourra faire exploser un petit peu quand il a envie, ce qui fait que tu peux aussi l'utiliser pour empêcher les gens de revenir. Et alors, je ne sais plus quel coup c'est. Je crois que c'est son bas A, donc qui n'est pas le smash mais la version normale. En fait, il invoque du feu qui tombe. Et donc, imagine au-dessus du vide, tu invoques du feu, ça tombe sur l'adversaire qui s'est remonté.
Putain, ça va être le cancer, mais.
Mais c'est incroyable, visuellement, à voir. Ça marche vraiment bien parce qu'il a repris exactement le style de Minecraft et même la lumière de Minecraft. Enfin, genre. Tu ne peux pas dire que c'est Smash Bros. Et c'est si bien fait que c'est dégueulasse sur la bannière. On a l'impression que c'est un vieux fake.
Ouais, même le personnage, tu peux voir être fake en fait.
Ouais, mais enfin. Je veux dire, ça a l'air d'être tellement. Parce que moi, quand je joue, les rares fois où je joue à Smash Bros, parce que je joue pas si souvent, j'y joue généralement avec mon frangin en ligne. En général, on fait un Simon Belmont et Richter Belmont.
Ouais, le cancer aussi, ça.
Et c'est déjà hyper le cancer, enfin, je veux dire. C'est vraiment le personnage cancer par excellence. Là, si on commence à faire avec du Minecraft, je veux dire, les gens, ils vont péter un boulard, quoi.
Ouais, franchement, ça rejoint. À un moment donné, ça va rejoindre la série des personnages qui sont rigolos à faire en mêlée, un peu trollesque, type le héros, parce que le héros est quand même pas mal aussi dans ce niveau-là. En termes de personnage troll, cancer, il est assez fort. Et je trouve que c'est plutôt une bonne addition. Au final, alors je suis pas un grand. Bon, franchement, Minecraft, ça ne me parle pas du tout, mais. Le personnage est intéressant.
Ah,
clairement pas, j'y ai surtout jamais joué. Donc, j'ai des potes des potes de mon âge qui ont joué, et à mon avis, ça leur parlerait plus, mais moi, ça me passe au-dessus. Parce que j'ai jamais touché à Minecraft. Ça reste pas des masses.
Enfin bon.
Mais bon, du gros boulot. Sakurai qui va sûrement encore mourir. D'ailleurs, pour les histoires de. D'ailleurs, c'est juste une anecdote intéressante pour finir. Pour les histoires justement de matériaux récupérés sur le terrain, et bah pour que ça fonctionne, ils ont dû tout recoder.
Putain.
Ils ont recodé tous les terrains pour que ça fonctionne.
Ouais, non, les mecs sont quand même bien ouf, quoi. Donc, Sakurai, il a maintenant les valises qu'il a sous les yeux, c'est plus des valises. Hein.
Ah non, mais là, ça se voit, c'est de pire en pire.
C'est toute la soute à bagages. Hein.
Je pense qu'on aura le dernier personnage et il fera bon, maintenant je prends ma retraite.
Bah, c'est pas impossible. Hein. Mais après, j'espère que Nintendo va lui payer une belle retraite.
Ouais, c'est ça. Bah, il est plus en fait les choses.
Alors, juste pour la petite histoire, puisque Mecton me le rappelait en off tout à l'heure.
Ouais, donc, mon micro a foiré.
Mais c'est pas grave. Il y a donc la démo de Pikmin 3 est disponible demain, et tout ce que vous faites dessus est transférable sur le jeu full, et ça débloque une difficulté en plus de ouf.
Ouais, c'est bien ça. On appelle ça difficulté ultra épicée, donc a priori avec plein de handicaps à la con, et dans le treehouse, le mec disait, par exemple, c'est maximum 60 Pikmin sur le terrain à la fois.
Ouf.
Pour certaines cartes, il va falloir bien équilibrer.
Le mode épicé, donc.
Le mode ultra épicé. Ça me rappelle un autre truc dont je vous parlerai un tout petit peu en off. Bref. On va écouter un petit morceau de la bande originale de Beyond Good and Evil. Ce morceau s'appelle Propaganda. Et c'est le morceau qu'on peut écouter dans le bar, je crois, de la ville principale.
Bar
du jeu. Non, pas celui-là. Voilà, et on se retrouve dans un petit peu plus de 2 minutes 30. À tout de suite.
T'as pas précisé le jeu ?
Beyond Good and Evil, si je l'ai précisé.
Ah, voilà. Pas pour moi.
Ben voilà. Voilà, monsieur, fallait écouter. Voilà, donc Beyond Good and Evil Propaganda, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Harakiga on the business to prevent and the kill the Yamahadish in the Cedar Club. In the car, get the north, get the stun alarm. And the Rakia, but I'm not hating on the games. Propaganda! Just to be me! Propaganda! Just to be me! Propaganda! Just to be me! Propaganda! Propaganda!
Mission complete.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Et nous allons parler de... Alors ça s'appelle Super Mario 35 ou c'est Mario 35?
Je ne sais plus.
Super Mario Bros 35.
Alors, Super Mario Bros... Ah, tu vois, je change en direct le titre. Tu vois,
les japonais et les titres, quoi.
Je prendrai le relais.
Ouais, je trouve que ça sonne déjà beaucoup moins bien que Tetris 99.
Ça a l'air moins bien aussi.
Ça a l'air moins
premier défaut du jeu.
Ça, la alors, on l'a lâché, c'est bon.
Alors, on va commencer. Il y a un article très complet de Monsieur Galaxies sur le sujet que vous pourrez trouver sur le dojo, dans lequel il explique pourquoi lui, ça lui a pas.
Avec un titre fameux.
Avec un titre fameux. Et pourquoi lui, ça lui a pas. Pourquoi objectivement
Objectivement,
c'est de la merde.
Puisque l'objectivité existe. Ah, mais il est sympa, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 problèmes.
Voilà, et donc, bon, alors, est-ce que tu peux revenir en très résumé sur ce qui t'a pas plu? Alors, il y a les questions de maniabilité.
Exactement, ouais. Bah, déjà, ouais, la maniabilité, alors, elle est... Je sais pas si vous avez vérifié, finalement, mais apparemment, elle est différente de du jeu de 85.
Il y a une différence que j'ai notée, c'est le rebond, quand tu sautes sur un ennemi pour faire un super saut juste après, il est beaucoup plus facile. Il est façon d'accord, Mario 2D moderne, il suffit de maintenir le bouton enfoncé avant l'impact et ça se fait tout seul. Quoi.
Alors que sur l'original, il faut vraiment appuyer pas à la frame sur laquelle tu touches l'ennemi, mais assez proche.
Mais pas loin.
Alors moi, j'ai essayé de faire la comparaison que tu m'as donnée. Le problème, c'est que j'ai une NES française, donc je joue en 50 Hz, donc en fait, ça n'a pas grand-chose à voir.
Oui, d'accord.
Et du coup, c'est pas hyper significatif. Alors c'est pareil pour les gens qui ont un lointain souvenir de Mario Bros. Les versions auxquelles vous jouez sur le hardware d'origine, hein, toutes les versions qui sont ressorties depuis en console virtuelle généralement, étaient les versions américaines.
Donc
ça fausse un petit peu les choses.
Sur Wii, je crois que c'était les versions c'était les versions européennes.
Ah oui ?
Semble, hein. Oh. C'est à partir du moment où ils ont sorti la NES Mini que ça a commencé à être en 60 Hz. Ça...
Ah, je sais pas, Kirby était sorti sur la console virtuelle Wii. Je suis pas sûr. Parce qu'il me semble qu'ils étaient la version anglaise et justement que c'était pas la version PAL. Bon, j'irai vérifier cette information. Mais bon, bref, en tout cas, sur du hardware d'origine, c'est difficilement comparable.
Ben, en tout cas, du coup, de ce que j'ai compris, moi, des différentes vidéos YouTube et articles en anglais, donc peut-être américain, que j'ai lu, la physique est différente. Alors, a priori, donc le perso serait plus lourd, donc aurait moins d'inertie, glisserait moins sur le sol, et aurait des sauts qui seraient plus mous, c'est-à-dire un peu plus moins rapide, moins voilà. Et moi, c'est vraiment un des gros défauts du jeu pour moi. Donc ça, l'équilibrage qui est assez pété, qui crée un fossé énorme entre eux, donc les joueurs et joueuses du 99% des gens en fait, et le top 1 qui tryhard sur Super Mario Bros. Ça, plus la surcouche de hasard qui est aussi complètement pété, qui fait que moi j'ai trouvé le jeu qui est complètement déséquilibré là où un... Parce que j'ai pas totalement réussi à le formuler à l'écrit, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais en fait, c'est un truc qui se conçoit assez facilement. La Tetris 99, Tetris en général, la difficulté, elle est parfaitement linéaire dans le sens où ça accélère au fur et à mesure, et le moment où vous décrochez, c'est le moment où vous êtes plus assez bon et vous avez perdu. a priori, c'est
oui,
comme ça.
Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire le moment où tu n'y arrives plus, c'est le moment où effectivement ça va trop vite pour toi.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est que t'es dépassé et qu'il faut que tu bosses sur ta rapidité, je sais pas, le placement de tes trucs, mais en règle générale, le moment où tu décroches est parfaitement adéquat avec ton skill, tes compétences. Or, donc du coup, ça marche bien sur Tetris 99 parce que ça dépend. En vrai, ça dépend des parties parce que effectivement, t'es ciblé ou pas. Mais généralement, ton placement, il est pas totalement injuste. Tu comprends pourquoi t'en es arrivé là. Et le problème de moi, c'est le gros problème de Super Mario Bros 35, c'est que ton classement semble très injuste parce que il y a déjà cet équilibrage qui est pété à la base, ce qui fait que donc l'équilibrage qui est pété plus le hasard, qui fait que finalement, si t'es dans les 99% des joueurs qui sont pas très bons, tu restes entre les places 35 et peut-être 5 constamment. Et tu fais des allers-retours entre les deux sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi il y a un moment autre que par le hasard, pourquoi à un moment donné c'est pas passé. Ou par une fausse manip qui est ultra punitive. Par exemple, moi il m'est souvent arrivé de... Bon alors la première partie je l'ai pas mis dans l'article, mais la première partie je savais pas comment sauter. Donc ça, pour le coup je peux m'en prendre quand même.
Ok, mais, donc il est pas du tout objectif.
je ne te blâme pas, la toute première partie je suis mort sur le premier Goomba.
Oui, voilà.
Et va dire que c'est des gamers ici.
Je veux dire, au moins.
Vous avez essayé de sauter avec quoi?
Je sais pas, je.
Non, bon, j'ai appuyé sur le bouton trop tard, j'étais trop content de retrouver le truc. Je reprendrai la main après, vas-y, continue.
Mais non, je m'étais habitué parce que je joue parfois sur PC, et donc du coup sur PC c'est le layout Xbox, et sauf que le bouton de saut est généralement à droite et pas en bas. Donc bref. Au-delà de ça, il m'est arrivé plusieurs fois de juste tomber dans un trou parce que j'ai appuyé un peu trop tard ou parce que je regardais autre chose. Et là où dans Tetris 99, quand on fait une erreur, il y a moyen de se rattraper. C'est plus compliqué, mais il y a moyen de se rattraper. Sur Super Mario 35, tu tombes, point. Qu'importe tous les efforts que t'as fait avant. Et je trouve ça particulièrement injuste, surtout dans un Battle Royale. Okay. C'était à peu près mes gros points de l'article.
Je laisse Mecton reprendre la main puisque Mecton n'est pas objectif, lui.
Non, alors je vais expliquer pourquoi je suis pas objectif.
Contrairement à Galaxies qui est parfaitement objectif.
Évidemment.
C'est ce qu'il avait en Angleterre.
Je pense que comme beaucoup de joueurs, en fait, le tout premier Mario, c'était mon premier jeu vidéo. J'avais 6 ans. Et...
J'étais tout mignon.
J'étais tout petit. Ouais, celui-là et Mega Man 2, tu vois. Ceux-là, ces deux jeux-là, je pourrais jamais être objectif. Ça a été mes premiers, avec DuckTales. Bref, et depuis quelques années, j'ai un petit rituel. Tous les ans, vers mon anniversaire, je me tape le jeu en entier.
C'est dégueulasse.
Et c'est beaucoup plus facile cette année. Ça a été beaucoup plus facile avec le Nintendo Switch Online, parce que quand tu foires ton truc, alors sur une manip à la con, je reviendrai sur ce que tu as dit. Tu peux tout simplement utiliser le rembobinage de l'émulateur et hop, tu continues. Alors, par où commencer ? La physique, ouais, elle est peut-être légèrement différente dans le ressenti, ça m'a pas gêné plus que ça. Comme je disais, le truc que j'ai, enfin, qui était évident pour moi, c'est le saut en rebondi sur un ennemi, il est largement simplifié. Et faut pas hésiter à en surabuser, quoi. Au niveau des morts par hasard, je suis moyennement d'accord. En fait, quand tu sautes dans un trou, c'est à la Dark Souls, quoi. Get good. T'as qu'à pas foirer, tu feras mieux ta partie d'après, quoi. Alors oui, la mort est ultra pénitive. Une fois que t'es mort, là où sur un Tetris tu peux te rattraper. Mais il y a deux fois moins de joueurs. Et encore heureux que la
mort... Trois fois moins de joueurs.
Trois fois, pardon.
Trois fois moins de joueurs.
Ouais, je joue trop au jeu, je suis nul en maths, du coup. Et encore heureux, du coup, que ça t'élimine tout de suite, parce que, et ça, c'est le point négatif que je vois à tout ça, c'est que quand t'es habitué au top 5, les fins de partie sont longues.
Alors, longues, c'est-à-dire tu peux pas envoyer assez d'ennemis, ou c'est le fait, parce que Tetris, ça accélère, donc effectivement, au bout d'un moment, élimine mécaniquement des gens.
Là, ça n'accélère pas, et personnellement, à la fin, j'y vais à la stratégie. C'est-à-dire que tu vas essayer de choper la warp zone la plus proche possible pour aller choper un niveau où il y a un Bowser pour pouvoir l'envoyer dans la partie des gens qui restent, quoi. pour essayer de les faire chier au maximum, ouais, en fait, si tu veux.
Alors, le chronomètre accélère quand même.
Et le chronomètre accélère à la fin, ouais.
Mais pas, la partie, effectivement.
Ouais, mais du coup, t'as ce côté... Parce que un des principes du Battle Royale un peu moderne, c'est justement la zone qui se réduit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on force finalement les joueurs à mourir. Je résume le truc, mais c'est ça.
C'est ça. C'est ce qu'explique Galaxies dans son très bon article, je le dis. Quand tu butes un ennemi...
Rempli d'objectivité.
Non, mais ça, c'est impossible d'écrire un article objectif sur un jeu.
Ah si, si, Galaxies l'a fait.
Si, si, je l'ai fait. Je veux dire, la preuve.
Il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisine à Jupiter pour se rendre compte qu'effectivement, cet article était parfaitement objectif.
La cuisine à Jupiter.
Bref, quand tu butes un ennemi, en plus de l'envoyer dans la partie d'un autre avec un système de ciblage qui est étrange, quoi. On reviendra peut-être dessus après, mais... Donc en plus de le buter, tu rajoutes des secondes à ton compteur de temps. Et autant, donc il y a des niveaux qui te permettent de farmer les secondes et t'es tranquille, donc ça te permet dans certaines situations d'attendre tranquillement, de voir ce qui se passe, de bien jauger, pour voir comment tu vas passer une séquence un peu compliquée parce qu'il y a un connard qui t'a mis une plante piranha pile là où t'allais atterrir.
Niveau 1-2 de ses morts.
Ah oui, alors la fleur de feu est l'item le plus pété du jeu, hein, sachez-le.
C'est quoi? Attends, toutes les 20 pièces récoltées, t'as le droit à un bonus?
Toutes les 20 pièces, t'as le droit à un bonus random.
Exactement, ouais. T'as une petite boîte à la Mario Kart.
Une roulette.
Et c'est. Exactement. Et t'as un champignon, une fleur de feu, une étoile ou un pot.
Et le pot dégage tout ce qu'il y a à l'écran, on peut te mettre tranquille.
Putain, ça doit être assez violent parce que si tu dégages tout ce qu'il y a à l'écran, tu l'envoies chez les adversaires ou pas?
Oui.
Ah oui, donc oui. C'est vachement plus intéressant en fait de gagner des pièces plutôt que d'essayer d'aller vite.
Il ne faut pas hésiter à les farmer, mais voilà, justement, au début, tu as le temps de prendre ton temps, et quand tu arrives sur une fin de partie, alors j'ai pas encore fait gaffe si c'était au-delà des 5 jours restants ou au bout de X minutes, le chronomètre va 2 fois plus vite, puis 3 fois plus vite. Donc là, tu passes en mode speedrun, quoi. Tu passes en mode speedrun et ça pousse à l'erreur.
D'accord.
Sauf que...
et l'objectivité reprend... Non,
pour le coup, je pense qu'il a...
De revers. Sauf que les parties durent quand même extrêmement longtemps, en finale.
J'ai pas eu et plus ça... de 10-12 minutes.
Ouais.
Putain, ça fait
énorme. Enfin, je veux dire, pour arriver à un final, ou pour arriver à un top 5, à mon avis, il faut pas peut-être 6 minutes, tu vois. Donc, enfin, le double... En fait, le problème, c'est que la phase finale dure autant que le reste de la partie.
Et avec ça, je suis d'accord.
J'avoue, et c'est pour ça que, effectivement, mon article parfaitement objectif assez vite. Mais non, mais le truc, c'est que aussi, ce que je dis dans l'article, c'est que je représente le bas peuple, dans le sens où j'ai jamais fait plus que top 2.
Le bas peuple. Voilà, et... Galactus Poutou.
Non mais le fait est que
les Toads c'est un peu la France d'en bas.
Au secours. Non mais le fait est que la physique, une des choses qui peut expliquer que j'ai beaucoup de mal avec la physique, c'est que moi je suis, excusez-moi pour le coup de vieux, mais je suis né avec les Mario sur Wii.
Oui. Non,
mais et ça, moi j'ai toujours grandi avec les Mario sur Wii qui sont beaucoup plus aériens.
Je peux tout à fait comprendre.
Et donc effectivement j'ai plus de mal. Donc pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à aller au bout. Mais c'est vrai que ce que j'ai mis dans l'article, le fait que les phases finales duraient longtemps, c'est quelque chose que j'ai vu en vidéo YouTube, mais aussi que j'ai lu dans pas mal de tests.
Ah, et ça je te le confirme sans problème, oui. Et justement, pour moi c'est donc t'as tout le début qui est sympathique, où tu prends tes marques, tout ça. Tu as cette espèce de ventre mou en fin de partie jusqu'à ce que le chronomètre s'accélère. Et là, tu vois toutes les parties des joueurs restants où les mecs se mettent à courir comme des cons. Et quelque part, c'est là où le système de ciblage devient intéressant. Donc, système de ciblage, tu peux choisir. Tu es à la Tetris 99, quoi. T'as 4 possibilités pour cibler un adversaire. Donc, t'as le mode riposte, que moi, personnellement, j'utilise sans arrêt jusqu'à la fin. Tu vas vraiment en mode tu me cibles et bah, tu vas crever en premier. Le mode pièce max, donc ça l'intérêt c'est si tu arrives à dégommer l'adversaire que tu cibles, tu récupères sa thune.
Ah oui, et donc tous les bonus qui vont avec.
Enfin les bonus, enfin, les bonus potentiels.
Tu peux faire tourner la roulette.
Voilà, tu peux tout claquer pour te mettre bien. tu as le mode je sais plus quel est le quatrième, mais bon, tu en as un qui est
un random, non?
Oui, c'est un aléatoire, tout simplement. Oui.
T'as... Pour ça, ouais, aléatoire, jamais. Riposte, pièce max et plus de temps, exactement.
Voilà. Et là, je suis d'accord avec ce que tu écris, c'est que le plus de temps, celui qui a le moins de temps, pardon. Donc c'est en gros éliminer le plus faible, enfin celui qui est le plus dans la merde. Il est quelque part risqué parce que tu vas lui envoyer plein de petites saloperies potentiellement faciles à buter et du coup lui donner du temps facile.
Ouais, exactement.
Et si tu lui envoies 150 Goombas et qu'il a une carapace, et ben il est tranquille pendant un petit moment.
Voilà, c'est ça. Et c'est là où c'est intéressant d'un point de vue, c'est-à-dire qu'on va éviter, notamment au bout d'un moment, on évite d'envoyer des carapaces. Ce qui est très compliqué, par exemple, dans le stage 2, où c'est très facile de faire des points, parce que c'est basiquement une ligne droite.
Oui, alors je suis basique.
Mais il est aussi facile d'avoir des coupas sur la route de la carapace qu'on a lancée. Ce qui fait qu'on en envoie chez les autres, ce qui leur simplifie la prise de temps.
Et ça, donc le stage 2, qui effectivement est parfait pour farmer quand tu le passes la première fois. Putain, je reviendrai aussi sur la première fois. Faut pas hésiter à utiliser la petite étoile qui est planquée. C'est compliqué à expliquer, mais il y a une petite étoile qui est planquée, et plutôt que dégommer les carapaces, tu roules dessus et on en parle. Et non, c'est complètement con ce que je dis, parce que tu vas quand même envoyer chez l'autre.
Tu envoies quand même les coupas. Mais effectivement, tu soulèves un truc important, c'est que la connaissance des niveaux, et ça pour le coup qui est assez bien foutu et qui est dans l'esprit anniversaire machin. Si tu connais les niveaux, si t'es familier avec, t'es avantagé. Et pas trop. C'est-à-dire que t'auras une étoile, une par exemple une fleur de feu, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire autant. Bon, pour le stage 2-1 qui est 1-2 qui est une horreur dans ce jeu. Choper une étoile, c'est tu peux gagner ta partie dessus. Mais autant sur la plupart des autres niveaux. C'est un petit bonus, une petite manière qu'ont les développeurs de dire « Ah, tu connais le niveau, donc t'es en terrain connu, t'es la famille. » mais en règle générale, ça ne t'avantage pas trop non plus. Et ça c'est bien trouvé par contre.
Ouais. D'ailleurs, au niveau des stages, est-ce que tous les stages du Mario Bros. D'origine sont présents?
Alors,
ou c'est juste une sélection?
Non, ils y sont tous, mais il y a un truc que j'ai pas compris.
Je
le place avant d'oublier. Si vous savez où sont planqués les one-up, récupérer un champignon one-up, c'est 20 pièces cadeau direct, et 20 pièces c'est un objet de la roulette cadeau, quoi. Donc c'est intéressant.
Oui, donc c'est toujours ça de prix, quoi.
C'est toujours intéressant. Et Galaxis, pour te répondre, si t'as du mal à, enfin si tu veux prendre tes marques dans un niveau en y allant pépouze, il y a le mode entraînement qui te permet de tourner sur un niveau tranquillou avec personne pour te faire chier.
Voilà, il y a le jeu sur Nintendo Switch.
Voilà, il y a le jeu de base, oui.
Exactement, il y a le jeu de base.
Alors au niveau de la rotation, donc il y a un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre, j'ai posé la question sur le forum et c'était pas évident avant le 2 ou 3e jour de disponibilité du jeu pour tout le monde. Quand tu rentres dans une partie, donc il y a deux types de parties, il y a la partie classique et puis il y a un mode événement et là, le dernier événement, c'était tous les stages sont en ordre fixe pour tout le monde, quoi. Mais sur le mode partie classique, quand tu rentres, on te demande d'abord de choisir un stage. Au début, tu n'as accès qu'à un seul. Et il y a un système de niveau de joueur, de niveau de compte, en fait, si tu veux. Et plus tu gagnes, plus tu es placé, plus tu vas prendre 2 points d'XP qui vont te faire monter de niveau. Et plus dans ce stage select, tu auras la possibilité de prendre un niveau avancé. Et a priori, j'ai encore du mal à vraiment le confirmer. Mais quand le stage que tu choisis à cette sélection va faire partie du roulement
de
niveau.
Tu ne débloques pas les stages, tu les débloques pas avec ton niveau de joueur, mais d'accord, en les finissant. Quand tu sélectionnes un stage, donc avant de commencer une partie, ça les ajoute à la liste. Exactement. Sauf que le problème, c'est que, honnêtement, là c'est une question que j'ai. Je n'ai aucune espèce d'idée de comment on est censé débloquer les niveaux plus loin si tout le monde joue sur les niveaux que tout le monde a déjà terminés.
Ouais, je suis d'accord. Et du coup, Méduse vient de balancer une théorie intéressante dans le chat. Il pense que quand tu finis un niveau, ça débloque celui d'après.
Ouais, c'est pas bête. Mais du coup, le fait est que comme tout le monde choisit les stages des deux premiers mondes, c'est quasiment impossible de débloquer le reste.
Ouais.
Et donc,
personnellement,
vas-y.
Non, alors personnellement, ceux que j'ai à disposition, je l'ai rendu accessible en jouant au mode événement qui a terminé il y a 2 jours. Où là, le truc était en ordre fixe pour tout le monde et plus tu allais loin, plus tu pouvais bah, accéder à ces stages, quoi.
Mais c'est, oui, mais effectivement, mais c'est pour ça que, donc, dans l'article, en fait, je dis que c'est un problème qui sera sûrement résolu avec le, avec la suite, en fait, avec la, la suite de vie de jeu. Parce que, bah, de fait, les joueurs qui sont moins bons et qui viennent de commencer vont être écrémés. Mm-hmm. Et ne restera plus que les gens qui joueront beaucoup et donc qui auront des niveaux avancés.
Peut-être.
Ouais, et non, là, ça deviendra peut-être vraiment intéressant. Mais en l'état, le jeu, c'est seulement des niveaux des deux premiers mondes. Et sans les châteaux. Les châteaux tombent très rarement.
Ouais.
Et du coup, c'est très vite casse-couille, honnêtement.
Je sais pas, ouais, j'ai eu les deux. Vas-y.
C'est. Non, mais c'est. En fait, je trouve que le. Je suis partagé là-dessus parce que dans l'article, j'arrive pas à trancher, en fait. Parce que d'un côté, le twist Battle Royale est suffisamment intéressant pour que les niveaux soient pas complètement redondants. C'est-à-dire que tu peux jouer deux fois le même niveau sans avoir l'impression de jouer le même niveau. Justement parce que les ennemis ne sont pas placés de la même manière. Donc tu vas pas avoir le même chemin. Oui, les surprises, genre trois plans de piranhas qui t'empêchent de passer.
Ça va, c'est mignon. J'ai eu 5 Bowser sur le même écran. Ah
oui, voilà.
Oui,
sauf que tu fais, putain, c'est la merde, ok, je me fais toucher, je passe à la suite. Roule.
Oui, voilà. Sauf ça.
Roule, et deux écrans après, tu te prends une volée de poissons qui a normalement rien à foutre ici et.
Ouais, je crois que les poissons et les poules, c'est limite les plus dangereux au final.
Les poissons, les poules, ouais. Et là, je commence poules, à avoir des frères marteaux. Et bah, ça surprend.
Alors, les poules, on peut leur sauter dessus quand on est hors de l'eau. Ça, c'est quelque
l'eau.
Chose qui.
Oui.
Voilà. Ouais, mais quand on est hors de l'eau, on peut leur sauter dessus.
C'est bizarre d'avoir un ennemi qui peut se déplacer sur tout l'écran alors que toi, t'es limité au sol en fait.
Ouais, mais il n'en a rien exactement. À foutre.
Mais c'est intéressant, je trouve. Au contraire, je trouve ça drôle moi quand j'ai des poules sur mon écran alors que je suis genre dans les airs. Mais effectivement, le twist Battle Royale est suffisamment intéressant pour ne pas totalement être relou. Mais le fait est que il y a cet écran, à chaque fois qu'on démarre une partie, il y a cet écran qui ne se remplit que de 8 stages. Parce qu'on ne joue pas les autres. Et donc finalement, on se retrouve. En fait, c'était peut-être plus une frustration qu'un réel ras-le-bol. Comment on dit ? C'est quoi le mot en français ? Comment on parle français ? Allô ?
Oui,
une lassitude, voilà. Vous êtes québécois. Non, mais une réelle lassitude, parce que les trucs sont même intéressants, et en fait, on a envie de retourner sur le jeu. C'est comme un TT19, ça se picore très très bien.
Ouais.
Le cacahuète, si vous voulez.
Bon, moi, j'ai une dernière question, vu qu'on arrive vers la fin.
Oui, effectivement, je confirme, il va falloir qu'on passe à autre chose.
Super Mario 35. Du coup, est-ce qu'il faut avoir joué au 34 d'épisode d'avant pour pouvoir apprécier ?
Stop. Oh là là.
Au score.
Alors, c'est sur cette blague que nous allons nous arrêter. Donc, Super Mario 35, si vous avez grandi avec Mario Bros, comme Mecton, vous aimerez. Si vous êtes objectif, comme Galaxies, vous
n'aimerez pas. Et si vous êtes neutre, faites les quêtes journalières et puis roule.
Encore une fois, c'est sympa. Ça se laisse...
Neutre, il y a des problèmes. Quand même, parce que chaotique, mauvais, bon, ben, c'est chaud, quoi. Ceux qui auront compris cette blague me remercieront.
Objectif mauvais.
La grochée, dit Zergy.
On parle de laquelle ?
Ne déconnez pas. Bref. Voilà, on va s'arrêter sur Super Mario 35. Je vous invite quand même à lire la tête de Galaxy, parce que quoi qu'il arrive, il y a des choses intéressantes à y lire, et effectivement, il y a des critiques, je trouve, qui sont très pertinentes dedans, comme ce que nous venons de faire. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes là-dessus. La vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que Nintendo va adapter le Battle Royale à d'autres trucs ? Est-ce que
putain, F-Zero, ce serait énorme.
Bah, moi, je pense
qu'il y avait un mode Battle Royale dans F-Zero X. Hein.
Le mode sur N64, justement sur F-Zero X, le mode élimination, s'ils le font online, mais c'est le carnage assuré.
Ah, cela dit, Nintendo, avec la loterie pour choper
les Nintendo Switch au Japon,
ils ont déjà battleisé la vie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bref, nous allons nous écouter une.
Animal Crossing 99.
c'est celui qui rembourse ses dettes en dernier qui a gagné.
Ah, pas inintéressant, ça peut durer très longtemps. Nous allons nous écouter une petite dégueulasserie du catalogue d'Ubisoft.
Trop
fait plaisir. Et oui, un extrait de la bande originale de Prince of Persia Warrior Within. L'épisode qui fait chier.
Ça commence bien.
Non, mais cet épisode est absolument atrocissime. Et donc là, c'est une musique qui s'appelle...
C'est le deuxième ou le troisième?
C'est le deuxième. Le troisième est pas si mal que ça. Le deuxième est vraiment atroce. Une musique qui s'appelle Conflict at the Entrance, qui est typiquement dans cette veine un petit peu...
Ah, c'est ce que j'ai quand je vais aux toilettes.
Non.
J'allais dire, c'est ce qui passe...
Conflit à la sortie, ça.
C'est ce qui passait aux soirées internes d'Ubisoft.
Oh non,
au secours. Vite, envoyez la réclame.
Bref, nous avons donc Prince of Persia Warrior Within Conflict at the Entrance, qui est... Ben voilà, vous allez voir, ça dure un petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite.
Putain, c'est long.
Et voilà, de retour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite surprise maison.
C'est ce qu'on appelle de la merde dans le jargon.
Ben, c'est ce qu'on appelle de la comment dire, de l'eurodance techno metal pop.
Non,
Mais c'est pas un Prince of Persia Warrior Within. C'est Ubisoft qui s'est rendu, enfin le service marketing d'Ubisoft qui s'est rendu compte qu'en fait le métal ça vendait bien et que le Dark Prince c'était très bien. Et ils sont partis en couille.
Ils sont décollés être emo et goths.
Voilà. Et si vous voulez un petit peu plus un peu plus d'infos là-dessus, je vous invite à lire un article que j'ai écrit il y a 3 ou 4 ans maintenant. Dans une petite rubrique que nous avions baptisée alors les archives de Cranky, et où l'objectif était de rejouer effectivement une trilogie de jeux ou une bilogie de jeux sur la même plateforme, c'est-à-dire d'aller refaire une série complète pour redonner un avis dessus. Et je vous ai mis donc un petit extrait de la BO de, comment dire, Prince of Persia le premier, et un petit extrait de la BO du deuxième. Voilà, ça fait plaisir, ça donne le ton. Et donc, tout ceci était pour parler d'Ubisoft, c'est une bonne entrée en matière.
Disons que la lourdeur est une bonne entrée en matière pour ce dont on va parler, effectivement.
Voilà, c'est ça, il y a eu de la lourdeur.
Ouais, plus que de la lourdeur, hein, s'il peut pas.
Il y a eu de la lourdeur, il y a eu du harcèlement, il y a eu des gens virés. C'est un petit peu débordé dans tous les sens.
Non, pas virés, ils ont été gentiment poussés à dégager.
Non, ils ont été remerciés.
C'est vrai.
C'était des différents créatifs.
Tout à fait.
Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
Objectivement, c'était vraiment des différents créatifs.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Excusez-moi.
Ouais.
Donc, Antix nous a fait un magnifique petit résumé. Je vais pas le reprendre forcément point par point, mais on va essayer d'aller un peu dans l'ordre chronologique, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir les réactions diverses d'Ubisoft, qui a surtout pas réagi, en fait. Et c'est surtout ça qui est très choquant, c'est que finalement, c'est là où on sent que c'est...
Une leçon de mauvais damage control.
En fait, ils ont réagi, mais mal.
C'est un peu ça, ouais. En disant, oh, dis donc, on savait pas.
Oula. Oh là là, oh là là. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que c'est quand même la première enquête du genre sur un éditeur aussi gros qu'Ubisoft, parce qu'on parle quand même du troisième éditeur mondial, hein, ce qui n'est pas rien. Et surtout, c'est une enquête qui a été menée dans un premier temps par Libération, donc journal français, et par la suite par Numérama, donc média internet dédié aux technologies numériques, qui est aussi français, et aussi par quelques non connus anglophones de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Jason Schreier pour Bloomberg.
Jason Schreier qui a fait plein d'autres trucs, hein, c'est un journaliste qui est très très connu.
Ancien de Kotaku, qui a révélé énormément de soucis dans les entreprises du jeu vidéo. Donc c'est aussi un de ses plus gros témoignages, même si pour le coup il arrivait après, alors que d'habitude c'est souvent le premier à sortir ce genre de choses. Ça, c'est un peu pour le résumé du contexte de l'histoire.
Voilà, et donc pour le résumé de l'histoire, donc il y a eu une enquête qui est parue chez Libération.
Alors, avant, il y a eu des tweets Donc c'est, comme souvent, ça a commencé par des tweets. Pour ce genre d'histoire, enfin, surtout pour le harcèlement sexuel, c'est assez commun dans différents milieux. Mais pour le coup, en ce qui concerne Ubisoft, il y a eu des tweets à ce sujet qui sont parus sur Twitter, du coup.
Qui n'étaient pas directement liés à Ubisoft au début, hein, d'ailleurs.
C'est pas forcément lié à Ubisoft, mais c'est un nom qui a fini par apparaître, si j'ai bien compris. Mais en tout cas,
ouais, exactement.
Qui apparaît de plus en plus, et donc, effectivement, en corrélation. La fameuse enquête de Libération, qui alors en plus n'est pas été dans le... C'est pas un article de la version numérique, c'était une du journal.
Oui, c'est une assez longue enquête d'ailleurs, si je me rappelle bien de l'article lui-même, c'est plusieurs mois d'enquête dans les sous-sols d'Ubisoft.
Ouais, voilà, enfin, on parle quand même, voilà, c'est pas été une réaction au tweet, c'est vraiment un truc qui a été mené notamment par Erwan Cario de Silence on joue. Pour ceux qui connaissent, donc avec une dans la version papier du quotidien, d'ailleurs avec une photo d'une manette de PlayStation dans la braguette d'un jean.
La photo était particulièrement
bien trouvée.
Crue. Il y avait un côté oula, c'est merde, c'est sérieux business. Quoi.
Tu savais de quels aspects de la vie, la mauvaise vie en entreprise on allait parler, quoi. Et donc c'est vraiment une enquête qui abordait donc les soucis d'ambiance et de travail à Ubisoft par le prisme du harcèlement sexuel, et notamment la domination de trois noms du service éditeur, donc de la section édition, pardon, donc c'est, qui est la section qui s'occupe vraiment de décider quel jeu sort et à peu de choses près comment, donc c'est plus ou moins aussi la section marketing.
Alors faut voir que la section édition chez Ubisoft, c'est une section extrêmement importante, puisqu'effectivement c'est eux qui décident, c'est pas tout à fait la direction artistique, c'est effectivement, comme tu disais, c'est un peu entre le marketing, l'avant-vente, la recherche, ils sont un peu à la croisée de certains trucs.
Bah en fait c'est comme un éditeur de livres d'une certaine façon, c'est un petit peu eux qui vont décider de l'orientation de l'éditeur, et notamment quel genre de jeu ils vont publier, éventuellement avec quelle fréquence et compagnie, et un petit peu la ligne directrice des jeux Ubisoft. Donc pour le coup, le côté monde ouvert bac à sable d'Ubisoft depuis 10 ans, ça vient de chez eux.
Bah oui. Voilà. Effectivement. Mais c'est typiquement ce genre de truc là. C'est là-dedans qu'on va trouver notamment des sous-sections, enfin on va dire des divisions à l'intérieur d'Ubisoft. Et notamment il y a celles qui font tout ce qui est recherche historique, photographie, ce genre de choses là. Donc c'est vraiment une section très importante. Hein. Je veux dire, c'est pas un petit service isolé. C'est beaucoup de monde et qui prennent des décisions très haut placées et très en amont des projets et qui aident aussi, qui appuient aussi le marketing et tout ça. Donc c'est vraiment pas anodin.
C'est pas
un petit studio isolé dans lequel ça se passe mal, quoi.
C'est une division centrale chez Ubisoft et je crois que pour eux, pour le coup, ils sont en France. Hein. Ils sont à Montreuil.
Ils sont au quatrième étage.
Voilà.
Le deuxième bureau sur la gauche. Alors quand vous êtes dans la rue, en fait, si vous voulez jeter des cailloux, faut jeter relativement haut, mais ça se fait bien.
Bon, en plus à Montreuil, jeter des cailloux, ça passera inaperçu. bref, tout ça pour dire que donc cette section édition a été mise en cause, notamment trois noms et pas les moins haut placés, puisque à l'époque où les articles sont parus, puisque ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, ça parlait de Tommy François, donc qui est un ancien de Game One, de MB, donc alors je crois que le nom complet est paru depuis, mais je l'ai pas noté et j'aurais dû. Donc faute pour moi, et qui sont en fait les deux assistants de Serge Asquette, qui est lui par contre le chef de la section édition et qui est aussi mis en cause dans l'histoire.
Avec des histoires relativement sordides d'ailleurs.
Sur Maxime Bellon. Sur...
Voilà, merci Galaxis.
Merci.
Notre reporter de l'extrême objectif.
Je vous en prie.
Alors, reporter de l'extrême objectif ou reporter objectif de l'extrême. Voilà. Attendez. Ou de l'objectivité extrême.
Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont montées là-dessus. On pourra parler aussi un petit peu après, je pense, de la façon dont c'était géré, mais globalement, dans ce qui était géré, notamment la mainmise de Serge Asquette sur l'aspect édition d'Ubisoft et à quel point ces décisions en fait influençaient vraiment les jeux. Mais je pense que ça, on peut revenir un petit peu après.
Oui, parce que c'était pas on y reviendra un peu après.
C'est pas dans l'enquête initiale d'Ubisoft, c'est paru beaucoup plus tard, notamment avec les enquêtes aux États-Unis.
Tout à fait, notamment sur la partie tout ce qui est Ubisoft Montréal, puisque Ubisoft Montréal c'est un gros gros truc aussi.
Oui, d'ailleurs Ubisoft Montréal, il y a aussi le chef du studio qui a été mis en cause dans ce genre d'histoire, donc mais j'ai oublié son nom.
Oui, je me souviens plus non plus, mais effectivement, il a été. Il y en a qui ont été remerciés, il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, mais je pense qu'on leur a gentiment demandé de partir. Enfin, ouais. Ça a mal tourné quand même. Hein.
Le directeur créatif, vous cherchez le nom ?
De Ubisoft Montréal.
Ouais, c'est juste comme ça.
D'accord. J'ai Tommy François, mais je sais pas si c'est ça.
Ouais, c'est non, Tommy
le
François.
Bras droit de Serge Ascou.
Okay. Ouais, lui, il est français, c'est un ancien Game One. Qui a d'ailleurs une vidéo de lui qui circule quand il parle des hôtesses à l'E3.
Ah, mais c'est un bourrin. C'est un sacré bouffe.
En mode, on peut les agripper, quoi.
Ouais.
Et il parlait pas des manettes.
Lourd.
Très, très lourd.
Et extrêmement, extrêmement vil, le savoir-vivre à la française, quoi.
Voilà. Tout ça pour dire que du coup ils sont quand même accusés d'harcèlement sexuel au travail, notamment sur le personnel féminin évidemment. Ça va jusqu'à des trucs sordides, évidemment les remarques habituelles du sexisme, type sur comment elle est maquillée, les commentaires sur comment elle est habillée, à des trucs vachement plus glauques et beaucoup plus répréhensibles, du style choper une fille, enfin les assistants de, je sais, alors je crois que c'était Tommy François ou MB, un des deux, qui chope une fille dans une soirée interne d'Ubisoft, qui la bloque pour qu'elle soit forcée d'embrasser leur chef, quoi. Ou plutôt qu'elle soit forcée de laisser leur chef l'embrasser, dans ce sens-là, ouais, ce sera mieux.
T'es plus dans la blague foireuse, là. Le doute est plus permis.
C'est même plus de l'humour, l'humour potache et compagnie, on parle vraiment de trucs à la limite du viol dans le cas présent. En tout cas, clairement du harcèlement.
Enfin, qui peut clairement rentrer dans un cadre d'agression sexuelle, en tout cas.
Ah, voilà, oui, exactement. C'est
totalement une agression sexuelle.
C'est pas encore un viol, effectivement. Et là où c'est intéressant, c'est que ces affaires, évidemment, ont été remontées au RH par les personnes, les victimes. Et notamment, ce qu'ont remonté les enquêtes de Libération, mais aussi une Numérama, parce que moi, c'est surtout celle-là que j'ai lue, vu que celles de Libération sont derrière leur abonnement que je n'ai pas.
Mais que si on se débrouille bien, on peut quand même trouver. Hein.
Après,
très honnêtement, l'enquête au complet pour l'avoir lue, ça mérite de lâcher 2 euros pour la lire. Entre nous, ça vaut vraiment le coup.
Sachant qu'il y a des résumés qui traînent un petit peu partout, mais c'est clairement pas l'enquête complète, hein, bien entendu. Mais ça a été rapporté que les RH et les RH mondiales d'Ubisoft justement couvraient ces 3 personnes dans leurs agissements, avec leur directrice en chef qui est Cécile Cornet. À base de oui, on va remonter, mais au final il y a rien qui se passe, et c'est limite la victime qui est considérée comme l'agresseur
coupable.
Ce qui pose problème, c'est que c'est ça que j'ai pas vraiment compris, c'est-à-dire, est-ce que les choses ont vraiment été remontées, ou est-ce que le service RH laissait noyer le truc? Parce que ce que sous-entendait la direction d'Ubisoft, c'est que finalement ces problèmes ne remontaient pas. Mais dans certains cas, ça me paraît difficile à croire. C'est-à-dire que la direction soit totalement aveugle à ce genre de problématique-là me paraît quand même compliqué.
Non, t'as des RH qui, à mon avis, ont voulu faire leur boulot et qui ont remonté à la supérieure. Et en fait, il suffit juste qu'il y ait un moment, il y ait quelqu'un qui ait décidé de dire
de bloquer, quoi.
Voilà, on bloque pour protéger nos cerveaux et nos créatifs qui vont quand même.
La vraie valeur d'Ubisoft.
Voilà, qui nous ont permis d'être là où on est actuellement.
Ah ben, c'est vraiment
pas étonnant.
Qui sont aussi les vrais connards d'Ubisoft.
D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et ça me permet d'enchaîner sur la suite de cette histoire, c'est que dans les jours qu'on suivit... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article est sorti quelques jours avant le Ubi Forward qui avait lieu le 12 juillet, donc qui était le substitut à la conférence 3 qui n'a pas eu lieu d'Ubisoft.
Tout à fait.
Et je crois que ça devait être genre le 10. Donc le 10 juillet, Libération sort un second article, cette fois-ci disponible en ligne, lui aussi toujours chez côté abonnement. Et lui, il est vachement intéressant parce que en fait, c'est un prolongement de l'enquête, mais qui rapporte notamment des bruits de couloir et des choses qui sont passées chez Ubisoft depuis la publication du premier article. Donc notamment des stratégies au niveau de la direction. Et l'une d'entre elles était très claire, en fait, le but c'était juste de laisser couler parce qu'ils se sont dit, les gens ils vont oublier en fait d'ici 1 ou 2 semaines, en plus on a le Ubi Forward, voilà. Autant faire oublier tout ça.
Dans le monde dans lequel nous vivons, une info en remplaçant une autre, finalement, relativement vite, ça peut être une stratégie viable à condition que ce qui est en train de se produire soit pas cataclysmique. Là, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'ampleur du truc, en fait.
Ouais, je pense que chez Libé, ils ont piffé le truc, justement, en coupant en deux l'article en anticipant le fait qu'Ubi allait essayer de noyer le poisson et de laisser couler. de relancer la machine. Je crois qu'ils s'en sortent comme ça.
Pour le coup, ça donne vraiment l'impression que c'est. Pour le coup, le second article n'a pas été publié. Je crois qu'il a été publié qu'en numérique. Donc, ce qui laisse à penser qu'effectivement, ça a été moins travaillé que l'enquête d'origine.
Remarque, mais par contre, tu me diras, je reviens. Le ton de l'article n'était pas. Je suis un justicier, je dénonce. C'était plus, je rapporte les faits et on verra ce qui se passe.
Ouais, tout à fait. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est vraiment le côté en réponse de la réponse, ce qui laisse aussi à penser que Libération avait encore quand même quelques bonnes sources en interne qui leur ont remonté les informations très très rapidement après les réunions. Donc, du coup, ce qui nous amène au 12 juillet, au Ubisoft, où Ubisoft décide de ne pas réagir là-dessus, en tout cas pas durant le Ubisoft.
Enfin, Ubisoft a dit très exactement qu'ils n'avaient pas les moyens techniques d'aller modifier l'Ubisoft, qui était un événement donc pré-enregistré, pour aller y inclure même juste un message d'excuse ou un entrefilet de 30 secondes pour dire bah oui, on est au courant qu'il y avait des problèmes, on essaie de changer. Effectivement, le montage vidéo est quelque chose qui n'existe pas encore en 2020, il faut le savoir.
Non, ils n'arrivent pas,
surtout mettre un carton en début, tu vois.
Qui a été inventé le 13 juillet.
Exactement.
Donc c'est vraiment très, très compliqué.
Ouais, ils n'arrivent pas à débugger un jeu, tu ne vas pas leur demander d'éditer une vidéo.
Non, mais par contre, le vrai souci avec ce message, autre que c'est du foutage de gueule, je veux dire, assumé, c'est que c'était tellement ridicule que ça a relancé, de fait, l'affaire Ubisoft, entre guillemets. C'est-à-dire que là où, effectivement, les réseaux sociaux passent rapidement d'une info à l'autre, même si ça reste en mémoire, faut pas non plus ce message a relancé le truc autour d'Ubisoft en disant, regardez ce qu'ils ne veulent même pas en parler, ils se défendent n'importe comment pour ne pas en parler. Ouais, ils ne savent pas comment faire.
C'est un petit côté effet stressant allégé, on va dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet stressant, c'est quand tu retires un truc d'Internet, tu peux être sûr qu'il va être partout après.
Tout à fait, et démultiplier, et déformer, tout ce que tu veux.
Là, il y a eu un petit peu de ça. D'ailleurs, une des conséquences intéressantes, alors, je n'ai pas tous les noms des influenceurs, mais par exemple, Gaycult, donc second site de jeux vidéo en France, en tout cas d'un point de vue généraliste, a décidé à la dernière minute d'annuler la couverture de l'Ubiforward parce que les personnes de la rédaction estimaient que ce n'était pas du tout en accord avec leurs valeurs, ce qui était en train de se passer.
Deuxième conséquence, d'ailleurs, aux alentours du... Alors, quelques jours plus tard, au mois de juillet, peut-être le 15 juillet ou quelque chose comme ça, il y a eu une petite vidéo qui a été sortie par Ubisoft, qui est Yves Guillemot qui dit « Oui, on se rend bien compte qu'il y a un problème, on va faire le ménage. » Qui, donc, évidemment, a eu nettement moins de visibilité que l'Ubisoft Forward et qui a servi, finalement, de social washing quasiment, c'est-à-dire de dire oui, non, c'est bon, regardez, on a réagi, on a fait un truc. Il y a 1% de vue du Ubisoft Forward sur ce truc-là. Donc c'est vraiment ridicule comme réaction. C'était juste histoire de dire, vous avez vu, on lave plus blanc, on va laver le linge sale, vous inquiétez pas.
Voilà, c'est ça. Et du coup, après ça, on continue à avoir d'autres choses qui sortent, donc notamment Jason Schreier, donc on en parlait tout à l'heure. Et là, il y a même la culture interne. Donc on a parlé de la culture très, très harcèlement, donc très boys club, comme il est nommé, mais en fait il y a aussi tout un tas de conséquences à ça, et on avait parlé de Serge Asquet tout à l'heure, donc lui aussi a été accusé de harcèlement sexuel, voire d'agression, mais aussi on découvre aussi à quel point il a la main mise en fait sur tout le marketing et à quel point aussi il influence la direction des jeux. Et il y a beaucoup de témoignages en fait de créatifs chez Ubisoft qui disaient que, un exemple très simple, dans les Assassin's Creed Origins et les suivants, on avait des personnages masculins, personnages principaux, et dans Odyssey, on avait un personnage féminin. Et en fait, il s'avère que du côté des équipes créatrices de Assassin's Creed, ils étaient carrément partants pour faire en sorte que ce soit un personnage féminin, le personnage principal, et qu'il n'y ait pas de personnage masculin, parce qu'ils estimaient que c'était plus intéressant au niveau de l'histoire. Et c'est par exemple le marketing qui les avait forcés à inclure un personnage masculin, voire à carrément n'avoir que ça dans le cas d'Origins.
Ce qui est quand même un peu con aussi, parce qu'effectivement, sur les personnages féminins, il y a moyen de faire des choses plus intéressantes en termes d'histoire, notamment parce que Assassin's Creed, malgré tout, ça traite d'histoire, et ça traite aussi de la place des individus dans l'histoire. C'est une très grosse part d'Assassin's Creed de traiter de la place des personnages historiques et de la place des individus dans l'histoire. Et donc le fait de placer des femmes à certaines époques historiques, ça aurait pu donner des choses extrêmement intéressantes.
Mais bon, on parle
effectivement, dommage quoi.
On parle d'une société qui justifie l'absence d'un modèle féminin dans le multijoueur d'Assassin's Creed Unity parce que les femmes, c'est trop dur à animer.
Oui, il y a ça aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire de la bouffe physique, vous rendez pas compte, monsieur, en 2020.
On n'a pas eu le sens d'être un beau.
On n'a pas eu le moteur de Koei Tecmo pour du Dora Live. Ils ont pas voulu nous le filer.
Ah non, mais attendez, c'est extrêmement difficile à faire.
Voilà. Et bah, je pense que aussi ça, du coup, on a ça inclut aussi le côté très très standardisé des jeux Ubisoft depuis quelques années. Monde ouvert, basque à sable avec plein de trucs à faire et au bout d'un moment tu t'emmerdes.
Il y a un certain nombre de gens qui avaient remarqué l'ironie des petits cartons d'Assassin's Creed quand tu démarres le jeu qui te rappellent que ce jeu a été créé par une équipe multiculturelle, plurielle, avec plein de gens de plein de sexes, de religions et d'origines différentes, et tu te rends compte qu'en fait, bah non, finalement il y a Squid qui dit vous me mettez un cum, il doit avoir la trentaine, une petite barbe de 3 jours et être brun. Surtout, essayez pas de sortir de ça.
Ouais, il y a un peu de ça. Mais voilà, donc, du coup, ça fait un peu partie des choses qui sont remontées. Alors, ça, c'est principalement en juillet. Depuis, il n'y a pas eu trop de remous de ce côté-là, même si ça fait partie des choses qui sont ramenées régulièrement sur le tapis, parce que maintenant, c'est quand même bien ancré, en tout cas, au niveau de la presse spécialisée jeux vidéo et des personnes qui s'intéressent sur le jeu vidéo du point de vue industrie, enfin, pas juste des jeux, mais aussi du point de vue industrie et emploi. La majorité des mecs qu'on a cités jusqu'à présent ont été gentiment remerciés ou sont partis volontairement. Certains après des mises à pied. Guillermo a fait un peu le mec qui savait pas.
Guillermo
a fait un peu le mec qui savait pas, et ce qui est un petit peu triste parce que bon, Serge Squad c'était un peu son second techniquement.
C'est pour ça que je te dis, c'est quand même étonnant. Alors moi, je veux bien qu'ils savent pas, à la limite, je peux. Mais dans ces cas-là, clairement, si le mec sait pas, c'est qu'il plaide l'incompétence. C'est-à-dire que quand t'es PDG d'une boîte comme ça, tu dois savoir ce qui se passe dans tes équipes. Ça fait partie de ton boulot.
Ouais. Et puis même, il y a des choses quand même que tu peux voir sans forcément qu'on te les remonte. Après, je sais pas comment Guillemot fonctionne
écoutez,
par rapport
à la petite stagiaire du deuxième. Bon, c'est une stagiaire. Voilà.
Alors,
une des hypothèses qui est probable pour ça, sans évidemment ça n'excuse rien, mais c'est un mécanisme qu'on voit souvent, c'est que comme bah, mine de rien c'est son pote, c'est l'excuse et le fait de dire oui il a fait ça mais à côté de ça voilà il se comporte très bien, enfin fait de tout simplement relativiser les actes.
Oui, c'est un biais cognitif pratiquement, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un que tu connais, t'as du mal à y croire et puis tu minimises un petit peu le truc, quoi.
Ce qui est vrai au quotidien, d'ailleurs, hein, de manière générale. Et juste pour finir là-dessus, donc il y a quand même eu un deuxième Ubi Forward en septembre, alors j'ai plus la date exacte, tout le monde l'a oublié, où a été présenté Immortal Phoenix machin Rise, enfin le clone de Breath of the Wild, là. Et il y a quand même eu, alors, dans une vidéo un petit peu à part, diffusée avant ou après, je ne sais plus exactement, un mot de Yves Guillermo pour parler de tout ça. Mais qui n'était même pas associé dans le Before, donc c'était un petit peu étrange.
Parce que, toujours pareil, en 2020, le montage reste quelque chose de relativement difficile.
Ouais, mais là, pour le coup, je pense même que c'est volontaire dans le sens où on en parle un petit peu avant, mais ça reste à part, tu vois. Et même d'ailleurs, dans la diffusion YouTube, la vidéo d'Yves Guillermo est à part du Before, donc une personne qui décide de regarder le Before en rediffusion ne voit pas le message.
Tout à fait, mais c'est bien ça qui est gênant. Hein.
Alors que c'est justement le genre de choses que tu dois faire, à mon avis, que tu dois vraiment mettre dans ce genre de vidéo, surtout dans une vidéo où tu présentes les devs.
Ils n'ont pas de
montage.
C'est compliqué en 2020, tu comprends, de remonter une vidéo pour insérer, encore une fois, un carton de 30 secondes ou une intervention de 2 minutes du PDG. Enfin, personne ne fait ça, je veux dire.
Qui fait ça encore? Une petite vidéo Twitter, allez, go.
Non mais enfin, tout ça a tourné un petit peu au ridicule et
ça n'a pas été très très bien géré, clairement.
Finalement, ça s'est un peu calmé au cours du mois d'août, puisque les enquêtes de l'IB ont quand même mis un peu le feu aux poudres. Je pense qu'Ubisoft s'est quand même rendu compte que c'était un peu plus gros que ce qu'ils pensaient au départ. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement tenté le « bon, on va fermer nos gueules et puis on verra bien ce que ça fait », mais ça n'a pas marché. Donc
je pense que le moment où ça a pris de l'autre côté de l'Atlantique a aussi pas mal réveillé dans le sens. Ah non, en fait, c'est pas juste la France.
Non, parce qu'ils déconnent zéro avec ça de l'autre côté. Hein.
Ouais, non, aux États-Unis et au Canada, c'est des choses qui sont prises extrêmement au sérieux et ça peut avoir des conséquences très très graves.
Ouais, et d'ailleurs, on pourrait finir en parlant un peu de Michel Ancel.
L'idée.
Parce que, donc, comme on le sait, il est parti il y a pas très longtemps. Et donc, il a dit qu'il quittait le jeu vidéo définitivement. Squat. Maintenant, est-ce que c'est lié à cette histoire? On commence à se poser la question, puisque dans les jours qui ont suivi, on était remonté, évidemment, deux trois trucs à son sujet, alors notamment le fait qu'il essaie de se taper les stagiaires où il l'a fait. Non, ça, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Bah, ça fait un peu rumeur que... de couloir, ça, pour le coup. Hein. Ouais, je prendrais ça avec des pincettes.
C'est... Alors, je suis d'accord. Yushiro qui nous dit qu'il faudra faire un combat Ubisoft contre Quantic Dream. Je suis assez d'accord.
Alors, je pense que Ubisoft gagne. Hein.
Sur la masse, je pense qu'Ubisoft gagne. Par contre, sur les photos de nazis sur le frigo.
Ah, il y a la tête chez Ubisoft aussi. Hein.
On n'a jamais eu de remontée. Il y a vraiment des remontées sur ce qui concerne du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. Il n'y a jamais eu de remontée de harcèlement moral, ou en tout cas, finalement, beaucoup moins, ou très peu. C'est assez étonnant d'ailleurs, finalement, que les deux aient pas été mélangés. C'est vraiment le comportement extrêmement déplacé d'un certain nombre de créatifs chez Ubisoft qui a été particulièrement
criminel.
Hein.
Enfin, c'est des
criminels dans certains
c'est
cas.
C'est pas
hein.
déplacé.
Ouais,
non, mais déplacé, criminel dans certains cas. Donc, pas de souci. Voilà, ok. Mais il n'y a pas eu de trop de questions de harcèlement moral et autres.
Alors, apparemment, si justement, il y a eu. Ça, je crois que c'était MB. Je continue de balancer. Je crois que c'était dans l'enquête de Numérama. Ça avait été remonté que justement des assistants d'Asquad, donc il me semble que c'est MB. Je sais plus lequel des deux, du coup, a été un peu du genre à utiliser les autres employés comme ses serviteurs.
Ou ses faire valoir, oui, non, mais ça a été. Alors ça a été dit de Michel Ancel aussi, mais c'est toujours pareil. C'est la remarque qui a été faite par certains n'était pas complètement idiote. C'est facile de cracher dessus quand il est parti. Il n'y a pas vraiment moyen de vérifier et il y aura pas de contre-enquête ou de comment dire de version de l'agresseur, entre guillemets.
Il me semble qu'il préparait une réponse. Je sais pas si c'est sorti ou pas.
Écoute, en tout cas, si c'est sorti, je l'ai pas vu. Parce qu'il y a eu aussi, effectivement, le fait qu'il y en a certains qui, effectivement, se servaient des stagiaires comme pas de porte et comme paillasson. Ce qui est possible. Et, effectivement, Michel Ancel fait partie des gens qui ont été accusés, bon, notamment d'agression sexuelle, notamment de harcèlement moral et du fait que c'est des gens... très colériques, qui sont capables de passer du rire aux larmes très rapidement et qui sont capables de féliciter quelqu'un et de le traiter comme si c'était la dernière des merdes en l'espace de 5 minutes.
Ouais, après, Michel Ancel, il y a eu aussi des reproches sur sa façon de gérer
Niveau 2. A priori, il est un peu grand patron, je prends toutes les décisions, je vous écoute, mais c'est ma décision qui prendra le pas sur,
c'est
la décision finale. Est-ce que des gens ont pu mal prendre certains tranchages qu'il a fait et du coup faire monter la sauce sur un timing favorable, je sais pas.
Apparemment, il aurait dit des choses du style « Non, mais tout se passe bien, il y en a quelques-uns qui sont en dépression, en burn-out, mais sinon ça va, tu vois. » Enfin,
oui, voilà.
C'est assez hallucinant quand même. Que... Hein.
Sorti de son contexte, alors, déjà, après, c'est peut-être
dans
pas...
l'article de Libération, il parle de harceler. Il y a notamment donc un homme qui est harcelé. Qui explique que c'est les RH qu'on couvert le truc et tout. Mais oui, faut voir aussi que généralement, tout ce qui est culture du crunch, des gros blockbusters en général, cette ambiance de travail qui est très productiviste et qui pousse à bout, c'est généralement pas fait dans une ambiance super cool. Donc honnêtement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait du harcèlement. Autre que sexuel, mais qui est du harcèlement, ne serait-ce que par le fait que c'est, mine de rien, enfin, Ubisoft, c'est ceux qui ont inventé quasiment inventé le fait de sous-traiter la création des jeux. C'est-à-dire que c'est les premiers, si je dis pas de bêtises, à faire des jeux qui sont assemblés aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que...
Ça fait partie des premiers, oui.
C'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs. Enfin, on sait que par exemple, Assassin's Creed Odyssey,
voilà,
le système
de
combat
voilà,
a été fait par un. Par
de toute
par
façon,
studio,
tu regardes le générique d'un Assassin's Creed, il dure 25 minutes parce que oui, t'as Ubisoft Shanghai, Ubisoft Montpellier qui fait l'animation des arbres, Ubisoft Paris qui fait l'animation des jambes et c'est
qui fait le multi.
Enfin voilà, oui, non, mais c'est assez hallucinant parce que oui, chaque jeu Ubisoft, en fait, tu as effectivement des petits morceaux qui sont assemblés de ci, de là. Donc Ubisoft Montréal est responsable effectivement de l'assemblage, la direction créatrice et tout ça, mais il y a tout un tas de sous-traitances internes et externes d'ailleurs qui se font juste à côté.
Oui, d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que Ubisoft le fait en interne parce qu'ils ont les studios aux quatre coins du monde, mais d'autres sociétés font ça par des studios externes, prestataires, comme tu viens de le dire. Quoi.
Et ça a toujours existé, puisque je rappelle que Factor 5 a basé une petite partie de son activité sur justement la sous-traitance d'un certain nombre de logiciels, de middleware, d'effets de lumière et autres, notamment sur GameCube ou sur PS2.
Bah, même chez Nintendo, Intelligent Systems, très longtemps, a été sous-traitant pour des trucs techniques, pour des des studios internes, ou même Monolith qui est maintenant sous-traitant sur pas mal de jeux, notamment sur Breath of the Wild, où ils ont été sous-traitants sur Open World.
Mais pour en revenir au sujet qu'évoquait Alexis, effectivement, la sous-traitance, ça rime avec maltraitance. Hein.
Souvent,
ça,
ouais.
Ça veut dire qu'effectivement, tu vas aller poser de la pression sur certaines personnes pour avoir des délais qui sont pas forcément très évidents à tenir.
Ouais, exactement, parce que le jeu, il faut bien qu'il soit livré, sauf que les éléments, ils sont faits dans différents studios, il faut que les studios, ils cravachent, quoi, pour...
ils arrivent pouvoir, à suivre,
hein. Pour que le jeu soit assemblé en fin de ligne.
Mais c'est tout bête, hein, t'as un truc qui est fait comme ça au forfait, dans lequel on te dit, il me faut une forêt de 10 km², il me la faut pour dans 15 jours, c'est tout, il te la faut pour dans 15 jours. T'as pas le choix, t'es pas payé à l'heure, t'es pas payé au jour, t'es payé à la réalisation. Et les objectifs de réalisation sont pas toujours très réalistes.
C'est ça.
Mais donc effectivement, du coup, harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle,
ça,
les
viols,
on ne sait pas, mais...
on espère que non, mais on peut pas vraiment l'exclure. Hein. Très honnêtement, pour les faits d'agression sexuelle, il y a un certain nombre de gens chez Ubisoft, je pense que ce serait quand même intéressant, maintenant que les gens ont été virés, qu'ils peuvent plus être protégés, tout ça, ce serait peut-être intéressant de porter plainte, pour qu'au moins il y ait une suite, même si ça n'aboutit peut-être pas pour tout un tas de raisons, ça permettrait quand même au moins que les responsables ne s'en tirent pas avec juste une petite tape sur la main, et puis Serge Asquette, je veux dire, il aura aucun problème pour retrouver un boulot ailleurs.
Bah ouais, il y a des chances.
C'est là où je plains les victimes, parce qu'elles doivent avoir un espèce de couperet au-dessus de la tronche. Si tu fais quoi que ce soit, si tu portes plainte, dis au revoir à ton boulot, ça doit être très compliqué à gérer.
Je serais pas surpris qu'il y a des victimes qui ont porté plainte ou qui sont plaintes auprès des RH qui maintenant ont dû trouver du boulot ailleurs que dans le jeu vidéo, parce que, en tout cas en France, c'est vraiment un petit milieu où tout le monde se connaît, c'est le genre de choses qui circulent. Enfin, tu viens d'Ubisoft, je pense que les RH, elles doivent recevoir régulièrement des coups de fil.
Mais je pense que c'est toujours le même problème, ça a été le même problème pour le cinéma aux États-Unis avec l'affaire...
Weinstein.
Où effectivement, c'est un tout petit milieu aussi, mine de rien. C'est-à-dire que le milieu du cinéma en France, aux États-Unis, de toute façon, les milieux artistiques, généralement, ce sont des milieux qui sont très réduits en nombre de personnes, qui sont extrêmement proches les unes des autres. Et oui, si t'es médisant sur tel ou tel réalisateur, tu retrouveras peut-être pas beaucoup de boulot en tant qu'acteur. Sauf si t'es vraiment très très bon ou très très payé. C'est des questions d'influence, en fait. Si toi, tu génères des entrées beaucoup, oui, tu vas avoir le droit d'ouvrir ta gueule. Mais à partir du moment où Jean-Paul Campion, Belmondo, ouais. Son nom m'échappe, c'est pas grave. Enfin, si tu fais pas partie du star system du haut de la pyramide, oui, tu cravaches et il faut que tu fermes les yeux sur 2-3 bricoles.
Ouais, et... Du coup, tout ça s'est un peu terminé en message de remerciement et merci, au revoir, on verra les suites juridiques. Mais c'est vrai que la vraie question, c'est quel prochain studio, quoi ? Parce que Quantic Dream, puis Ubisoft, puis...
Nadeo, il y a eu récemment.
Nadeo,
oui,
ouais, y a eu
des c'est vrai. Ouais, mais Nadeo, c'est Nadeo Ubisoft. A été racheté par Ubisoft, voilà. Mais cela dit, ça faisait pas partie. Enfin,
ils
c'était racheté.
La culture d'entreprise d'Ubisoft.
Exactement.
C'est possible qu'ils l'avaient avant, parce que même les petits studios, la toxicité, elle est là aussi. Hein. Eugène Software, ils ont été en grève pendant un mois pour des histoires de salaire pas payé, et je peux te dire que c'était pas beaucoup mieux quand tu écoutais ce qu'ils racontaient. Hein.
Et même, même en marge de ça, ce qui est inquiétant et qui pose un vrai problème, et je vous invite à vous renseigner sur le sujet, il y a un label en France qui est importé des États-Unis qui est Great Place to Work, qui est un label qui est sorti par... Alors, je sais plus quelle... société américaine, mais qui a des bureaux en France, et Ubisoft était 5 ou 6e.
C'est le label du même nom. Hein.
C'est possible que la société porte le même nom, oui. Et c'est le label de est-ce que il fait bon vivre dans ton entreprise, tu vois.
Ouais, donc ça a
Ubisoft
la même valeur
était...
que le...
Ça n'a pas grand-chose comme valeur.
Ça a la même valeur que le Nintendo Seal of Quality.
C'est à peu près ça. Mais, ouais. mais c'était quand même un label qui avait une certaine réputation, et en fait, les mecs qui l'ont créé, c'est pas du social washing, hein. Les mecs qui l'ont créé, ils croyaient vraiment... Et ils font vraiment très attention à ça. Et le fait qu'Ubisoft soit 5 ou 6e du classement France ou Monde, c'est-à-dire vraiment un truc... ils étaient dans le top, quoi. Alors qu'il se passe tout ça en interne, ça a fait très très mal à ce label Great Place to Work, qui est en train de revoir complètement sa copie sur la façon dont ils évaluent les entreprises.
Parce qu'en fait,
c'est remonté assez loin.
Ils se sont fait baiser.
Pour le coup, il y a un drop de la marque qui a fait une très bonne vidéo sur Ubisoft, et notamment le Great Place to Work, ils en parlaient. Et notamment le fait que, bah, en fait, ça a une vocation très très marketing, en fait. Parce que dire, hey, notre entreprise, elle est bien, c'est une des meilleures entreprises travaillées en France.
Ça permet d'attirer des talents.
Bah, ça permet d'attirer des talents. C'est une com qui est facile à faire et qui va être relayée par, par des trucs, soit par des sites spécialisés, mais surtout par des journaux un peu plus généralistes, parce que, en fait, ça fait toujours bien dire, tu vois. Cinquième entreprise de France où c'est le meilleur, fait le mieux travailler, c'est une entreprise de jeux vidéo, tu vois, c'est toujours bon pour le moral, et t'as le SNJV derrière qui rempile. En mode, regardez, on a une entreprise dans notre top 5, c'est génial, tu vois.
Oui, c'est sûr, ça te fait une belle promo dans certains cas très indirect.
Ouais, d'ailleurs, pour finir un petit peu avec ces histoires de bon endroit où travailler, ou plutôt l'inverse dans ce cas-là, il y a eu un sondage réalisé et dont les résultats ont été publiés publiquement. Alors, je ne sais pas si c'est par Ubisoft, mais en tout cas, le résultat est public. Suite à un sondage des salariés encore en poste, il y aurait 25% de personnes qui estiment avoir subi du harcèlement ou une agression sexuelle ou morale au boulot chez Ubisoft.
Ce qui est beaucoup plus qu'avant que les affaires éclatent.
On peut dire, ah, oh, c'est pas beaucoup, mais 25%, c'est quand même énorme sur la masse salariale d'Ubisoft, ça fait du monde. C'est pas 15 personnes Ubisoft, et déjà 25% sur 15 personnes, je crois que c'est trop. Mais,
non, mais 25% c'est, oui. En général, c'est énorme.
25% c'est énorme, c'est-à-dire qu'un salarié sur 4 en est victime, et c'est essentiellement des femmes, puisqu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Alors, il y a d'autres types d'agressions, évidemment.
Les trans aussi, il y a eu des témoignages de trans ou de là-dessus qui l'ont, qui disent aussi l'avoir très 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 mal vécu.
Mais bref. C'est pour ça que CD Projekt Red. Honnêtement, le jour où il y a un article dessus, ça va faire très mal. Parce que
je pense aussi.
Ça fait, bon, on connaît la culture du crunch, notamment en Cyberpunk 2077, où ça fait approximativement depuis 2013 qu'ils n'ont pas vu leur famille. Mais,
c'est moche.
Déjà, comme on l'a
dit. Je rigole, mais c'est moche.
Voilà. Harcèlement, mine de rien, c'est du harcèlement moral. Et ils ont tenu, il y a un ou deux ans, des propos qui étaient très transphobes. Donc, généralement, quand t'es pas trop enclin à parler bien de personnes trans, je pense que tout ce qui est femme, assignée femme, même homme un peu efféminé, ça passe tout de suite en harcèlement moral.
Encore plus quand tu... Parce qu'encore plus... Bon, déjà en Pologne en ce moment, il ne fait pas bon être homosexuel dans ce pays, disons-le clairement. Et en plus, ils sont en train de bosser sur quand même un jeu cyberpunk. Le cyberpunk, c'est vraiment un des univers les majeurs pour justement tout ce qui est transidentité. Ça fait encore plus... Tu es en train de te dire, ouais, cyberpunk 2277 niveau contenu, ça va peut-être être pas terrible. Hein. Enfin, en tout cas, ouais, la morale exactement. Va pas être vraiment là où elle est d'habitude. Ouais,
je sais pas ce que ça va donner. Juste pour clôturer l'émission.
J'aimerais juste corriger ce que je viens de dire. Et je te laisse clôturer. Par rapport au sondage d'Ubisoft, alors, j'ai retrouvé l'article de Numérama qui en parlait. Donc, près de 25% des employés d'Ubisoft ont vécu ou ont été témoins de mauvais comportements en milieu professionnel ces deux dernières années, et une personne sur cinq ne se sent pas en sécurité ou complètement respectée dans le cadre de son travail.
C'est ouf.
C'est donc, il faut constater. Alors, effectivement, c'est pas 25% de victimes, mais ça veut dire qu'en fait, un quart des employés d'Ubisoft
est victime ou témoin.
Est victime ou témoin, et 20% ne se sent pas en sécurité, ce qui est quand même énorme.
20% qui ne se sent pas en sécurité, c'est quand même alarmant. Voilà. Pour Ubisoft. Hein, je voudrais juste, pour conclure, faire un tout petit tour de table. Est-ce que vous pensez, objectivement, en ce qui concerne Galaxies, les autres, vous dites ce que vous voulez.
Le droit est subjectif, c'est bon.
Vous avez le droit de subjectif. Est-ce que vous pensez que Ubisoft peut arriver à redresser la barre sur le sujet, c'est-à-dire à faire du ménage en interne et à changer cette culture d'entreprise, ou est-ce que vous pensez que, de toute façon, c'est co-substantiel, soit à leur métier, soit à leur façon de travailler, qui fait qu'aujourd'hui, changer va être très compliqué. Oui, redresser la barre, c'est un mauvais jeu de mots.
Effectivement, c'était pas terrible.
Antix, toi qui as bien suivi cette affaire, est-ce que tu penses qu'ils peuvent s'en sortir, ou est-ce que...
Non, ça va pas se faire du jour au lendemain, on va être honnête là-dessus. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est dur à dire parce que je connais pas du tout les gens qui bossent là-bas. C'est juste que quand même, enfin, pour y bosser, les nouvelles technologies, c'est quand même un milieu très masculin, très sexiste quand même. Donc à mon avis, ouais, c'est... Ça peut se faire, mais est-ce qu'ils auront les bons outils, les bonnes méthodes? Alors sachant qu'en plus en France, on a une tendance à protéger les harceleurs et les accusés d'agression sexuelle assez facilement. Je vais être assez... oui, pas que lui, mais oui, c'est pas forcément lui que je pensais. Mais
alors je rappelle que... excusez-moi, on tape à la porte.
Oups.
c'est la police.
Oups, alors excusez-moi, je vais terminer rapidement. Moi, je suis un petit peu pessimiste sur le sujet. Ceci dit, c'est vraiment bien que cette affaire soit sortie et qu'effectivement, au niveau d'Ubisoft, ils aient une volonté de faire évoluer les choses parce que c'est quand même une mentalité qui est globale à l'industrie. Et que si le numéro 3 mondial en édition peut se bouger un peu le cul dessus et montrer quelque chose de bien, ben, ce sera pour le meilleur. Donc j'espère qu'ils y arriveront et j'ai un peu du mal à y croire.
Monsieur Galaxies, je te rappelle que tu es obligé d'être objectif.
C'est ça, objectif.
C'est ton défi de la soirée. L'objectif.
Objectivement, c'était la merde. Non,
C'était merci Galaxies.
C'est rouge, objectif. Mais comment? C'est rouge, non, mais comment en...
C'est rouge,
écarlate.
Triple écarlate.
Rouge sang.
Non mais honnêtement, ça va être très compliqué pour Ubisoft de redresser la barre. Ne serait-ce que en termes d'image publique, ils sont complètement morts. Enfin, ça fait des années qu'elle est entamée à cause de la qualité de leur jeu, mais alors là, en pleine période MeToo, parce que on le rappelle, hein, c'est pas fini, hein. Ça ne se finira jamais. Et pour, je veux dire, je dis pas ça ironiquement, hein, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. Que ça continue, mais espérons que ça finisse pour le mieux. En tout cas, ouais, Ubisoft, du coup, là, leur image publique est quand même très bien entamée, si ce n'est au plus bas. Le fait est que nous, en tant que public, on n'a pas les moyens de savoir si ça s'améliore en interne, autre que par les articles de journaux et avec Libération, avec maintenant l'intégralité des journaux qui sont au courant. Des agissements d'Ubisoft, tout le monde les attend en tournant. Enfin, je veux dire, je pense que le journal qui peut sortir la prochaine grosse enquête sur Ubisoft, c'est quand même un énorme titre. Et voilà, mais le fait est qu'en interne, ça va être très compliqué pour Ubisoft de déjà réparer les préjudices, parce que mine de rien, s'il y a un cinquième des employés qui ne sentent pas en sécurité, c'est un gros boulot de restructuration de l'entreprise. Et en plus, celles et ceux qui ont été agressés et ou harcelés, ça demande tout ça des thérapies, de la reconstruction personnelle, des ne serait-ce que des congés payés, des mutations ou des indemnisations de départ d'entreprise. Ça va coûter très cher et ça va demander un gros boulot à Ubisoft sur lui-même en général.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis en fait. Il y a quand même, un énorme boulot de restructuration interne, en plus d'une question de culture d'entreprise qui est peut-être un peu défaillante. Maintenant, je revendique sur un point, c'est si Ubisoft arrive à le faire et arrive à montrer qu'ils arrivent à le faire, c'est-à-dire vraiment à montrer et à démontrer qu'ils l'ont fait, ce serait un énorme pas en avant pour toute l'industrie qui serait bénéfique pour tout le monde. C'est quand même une vraie note d'espoir. Mecton, je te laisse la parole, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par nos deux compères.
Quelques points là, sur la question de vous sentez-vous en sécurité, là en y réfléchissant, la question posée comme ça, je ne sais pas si les gens ne se sentent pas en sécurité physique ou si c'est des questions de sécurité de l'emploi. Parce qu'on sait que c'est des milieux, le développement, où les emplois sont finalement très précaires. Tu es globalement assis sur un siège éjectable. Et si tu ne tiens pas la pression, bah tu dégages, il y en a 30 qui veulent prendre ta place devant la porte d'entrée.
C'est pas sécurité de l'emploi, pour le coup, c'est sécurité émotionnelle. C'est même pas physique, je pense, c'est vraiment émotionnel ou psychique par rapport à ton environnement de travail. Est-ce que tu te sens à l'aise d'aller au boulot? Est-ce que t'as pas juste envie de pleurer quand tu rentres chez toi, quoi?
Alors,
et même ce que tu racontes, Mecton, ça reste du harcèlement, pour le coup, du harcèlement moral, enfin, le chantage à l'emploi et... C'est un grand ressort de harcèlement moral.
C'est vrai.
C'est connu dans jeux vidéo d'ailleurs. Hein,
c'est vrai, clairement. Après, les périodes de crunch, le mot est sorti il y a quelques années, ça a toujours existé, mais maintenant, le monde entier, les gens qui s'intéressent au sujet développement en ont pleinement conscience. Ça a toujours existé. Donc, effectivement, les entreprises en abusent pour poser une pression dingue sur leurs salariés. Donc pour parler d'Ubisoft ou d'autres développeurs en général, je ne pense pas que la question pression slash harcèlement moral soit facile à solutionner, quoi. Tu auras toujours des personnes qui vivront mieux la pression que d'autres, et malheureusement tu auras toujours quelque part un chef d'équipe qui en jouera jusqu'à ce que ça vire au harcèlement moral. C'est mon avis et j'espère me planter. En termes d'image, alors je pense, oui, pour les connaisseurs c'est moche, pour la grande majorité des joueurs qui ne sont pas au courant de cette affaire, ils s'en foutent, ça ne fera pas plus de dégâts que ça dans le chiffre d'affaires à la fin de l'année. Malheureusement. Je rappelle que le meilleur moyen de militer quand on est joueur, si quelque chose ne plaît pas chez un développeur ou un éditeur, n'achetez pas. C'est ce qui leur fait le plus mal.
Oui, mais ça reste. Enfin, voter avec son portefeuille, ça reste quand même un plus facile à dire qu'à faire.
Oui, ça. D'accord.
Et soutenir les trucs en ligne. C'est quand même
c'est très facile. Et après, bon, pour revenir au sujet principal, donc du harcèlement sexuel, alors malheureusement, je ne pense pas que ce soit propre au monde du développement de jeu. C'est malheureusement une question d'éducation. Donc de là à dire qu'il y a plus de gros cons dans le milieu du jeu, peut-être. Après, est-ce que ce genre d'affaire peut servir d'exemple pour améliorer tout ça? Ben, espérons.
Et bien voilà, on va terminer là-dessus sur une note d'espoir, ça me paraît quand même important. On va vous dire bonne nuit, parce qu'il commence à être drôlement tard, mais c'était important qu'on... Enfin, je suis content qu'on ait fait cette émission.
Ah oui, il est pas tôt.
Oui, il est pas tôt, oui, mais en fait, on a beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a besoin de tout déballer sur le sujet, et puis d'en parler vraiment, puisque ça nous a occupé une bonne partie de l'été aussi.
À la base, on voulait faire dans l'actu il y a 2 semaines, donc autant vous dire qu'on a bien fait de changer.
Oui, je pense qu'on a bien fait de changer. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines, je sais pas exactement pourquoi encore, mais... On va bien trouver, il n'y a pas de souci.
Écrit ne sera pas sorti, et Zelda Mousseau non plus.
Mais on trouvera quelque chose, ne t'inquiète
pas. Ils n'ont pas un article, Libé? Non. Ok.
Sur
Zelda Mousseau, ouais.
Stop. Non, j'ai 2-3 petites idées dans la musette, mais ne vous inquiétez pas, on en discutera entre deux, puis on vous tiendra au courant quoi qu'il arrive. Je suis désolé d'avoir publié le podcast aussi en retard la semaine dernière.
Ouais, excuse-toi, ouais.
C'était le crunch,
tu veux dire hier.
C'était le crunch, oui. Voilà, oh, ça va, c'est bon, ça va. On va essayer de faire un peu mieux pour cette semaine. En tout cas, on vous fait des gros bisous, sans harcèlement, c'est des gros bisous neutres d'amour, d'affection et qui sont consentis.
De notre côté, en tout cas.
Stop. Voilà, donc on vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Bye bye.
Bisous, ciao.
Des bisous.